Vous écoutez
RMC.
RMC.
I will be the coach of Lille next year.
So we know the possibility. It's not only physical.
I come with really, really pleasure. It's really bizarre.
No, me, in general, you know. No, me. I'm in PSG. I'm really happy. I will finish the season.
We have some changes. We didn't score. This team were waiting. And after, we are not marking.
RMC, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est oui, l'After est là, comme tous les soirs jusqu'à minuit, à la radio sur RMC, à la télé sur After Foot TV. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Flo Gautreau est là ce soir. Salut Flo.
Salut à tous.
Daniel Riello est là également ce soir. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Maxime Chano est là ce soir aussi.
Oh, avec une grande voix. Hein. Tu m'as présenté.
C'est l'équipe salut de Valenciennes. Hein.
Salut à tous. Ouais,
hein. Vous êtes là les gars.
Ouais, c'est quoi le nouveau?
Ouais, je dis à Flo.
Ah oui, ils ont un retour.
On aurait pu ne pas faire.
Oui, effectivement, j'ai appris ça.
Je pense que Flo Gautreau m'en doit une belle. Si j'avais pas été très mal, habile de mes mains.
Petit incident sur la route. Ouais.
Je pense qu'on n'avait pas
Flo ce soir. Tu m'en donnes une belle, mais moi, j'aurais peut-être carrément évité l'engin. Quoi.
Ah ouais, tout à fait. Petit incident sans conséquence, voilà. Heureusement. Voilà.
Je prends la responsabilité.
Retour de Valenciennes hier pour la dernière date de la tournée des 20 ans de l'After. Ce soir, les amis, attention, un grand retour. Le retour du fils prodigue. Un grand ami de l'After est avec nous. Il nous a lâché en 2020 pour un petit club, un petit banc, l'AS Monaco. Damien Perinel est dans l'After. Salut Damien.
Eh, bonsoir à tous.
Oh, le retour de Damien Perinel.
Ça fait bien plaisir de vous retrouver en tout cas.
On est content de t'avoir avec nous. Je rappelle quand même, pour ceux qui nous ont rejoints il y a quelques mois, quelques années seulement, Damien, c'est parti de la bande, toujours hein, de l'After pendant des années, avant de mener sa carrière d'entraîneur à Monaco. 6 ans à la Turbie, adjoint d'abord.
Adjoint de Kovac.
Kovac. C'est ça.
Peter. Philippe Clément.
T'as pris en main la réserve de Monaco. Exactement. Puis après adjoint numéro 1, Kovac.
Et après
Clément.
Après Adi.
Hutter.
Et puis
Pocognoli. C'est celui qui a résisté à tous ces gars.
Ouais, ça fait beaucoup de Belges.
Hein. Survivant à la fin, mais il en restait un. Voilà.
Cela dit, le simple fait de, ça on le dit souvent, mais de survivre alors qu'il y a des changements de coach, c'est plutôt positif pour toi. Parce que ils peuvent arriver avec un staff à eux, ils peuvent dégager tout le monde.
Bah, de survivre dans un club comme Monaco où l'exigence est très haute. Bah non, bien sûr que c'est une fierté. Et puis de pouvoir amener même ses compétences à de nouveaux entraîneurs, à de nouveaux staffs, c'est un plaisir, c'est valorisant, je trouve.
C'est valorisant. Pourquoi tu quittes Monaco? Tu vas en parler dans un instant, bien sûr. Tu es enfin libre de tout nous dire. Tu vas balancer sur l'ESM. Je plaisante, Damien. On a des questions à te poser quand même sur les 4 coachs. On dira lequel t'as le plus impressionné.
Il y a un côté, Nico, comme on est très US, là, avec Maxime.
Attends, mais Maxime Giannot est the new Damien Perrinel.
C'est incroyable. C'est vrai, on a
New York.
Les cheveux ont moins.
Mais c'est pas le même club, c'est ça? Vous étiez pas dans le même club?
Non, mais j'étais dans le meilleur. J'étais dans le bon.
Il était dans le nouveau riche, surtout.
Quitte à être intelligent.
C'était quoi, toi, t'es New York FC?
Ouais, c'est ça, les bleus.
Et toi,
New York Red Bull.
Red Bull. Voilà. C'est la galaxie, Damien.
On se retrouve tous au baratin, quand même, malgré tout.
Ah, tiens, on en parlait.
Voilà.
On va y aller, n'en bouge pas.
On en parle dans 10 jours.
On sera à New York dans une semaine.
On en parle dans 10 jours. Tiens, c'est vrai, qui a fait la meilleure carrière? J'aime bien mettre de l'ambiance, là. Maxime, Damien,
tu vas plomber là.
Damien, t'as quoi? T'as 11 matchs en Ligue 1, je crois, c'est ça?
Ouais, Max a une carrière plus.
Plus Jupiler League, plus belge, hein, et international aussi.
À Ajaccio, t'étais en Ligue 1, c'est ça?
Non, Ligue 2 pour le coup.
Ligue 2.
Bah, tu vois,
et puis international, Luxembourg.
Non, ouais, bah, j'ai un peu plus de matchs que toi, Damien, c'est tout.
C'est bien.
Non, je rigole. Non, on va dire qu'on a une carrière égale.
On a une équipe de l'After, ça fait une bonne charnière.
Une excellente charnière, t'as raison.
On n'allait pas très vite, lui et moi.
Perinel, Chano.
Non, c'est ballon, nous, c'est ça.
Ouais. Bah, toi, ouais, surtout. Ouais.
Que vous avez fait une longue carrière, en tout cas, tous les deux, les gars. Et notamment
plusieurs fois. Hein.
Ah bon?
Ah, bah, évidemment. On a joué.
T'es en Ligue 2?
Maintenant, MLS pour le
coup. MLS aussi, d'accord.
Peut-être même en Ligue 2. Ouais, je sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, en MLS.
J'ai me retrouvé dans un duel sur le
terrain. Très bon joueur, Damien. Très, très bon joueur. C'était le Laurent Blanc des New York Red Bull.
Très bien. Alors, tu restes avec
nous. J'ai bien fait de venir.
Une heure, Damien Perinel est avec nous. La saison ratée de Monaco, on va en parler. La double confrontation Ligue des Champions contre le PSG. Vous avez failli sortir le futur champion, double champion d'Europe en titre. L'évolution d'Ekliouj que tu as vu jeune, que tu as amené chez les pros, notamment à Monaco jusqu'au mondial désormais. As-tu cru en Paul Pogba? On te posera des questions comme ça. Est-ce que Golovin se fout-il du monde? On te posera la question également. Et puis, est-ce que le prince, il est sympa? Voilà parmi les questions qu'on peut te poser ce soir.
Est-ce que tu as eu réunion chez Riboloyev, pieds nus sur la moquette blanche?
J'ai pas eu ce privilège. J'ai pas eu cet honneur.
On a jamais trouvé quelqu'un qui est allé sur cette moquette.
Chez le président.
Pas qu'il a une moquette épaisse 50 cm.
Le rêve.
Je suis d'accord pour enlever les chaussures quand on va chez quelqu'un.
D'accord. Même parquet?
Bon, si possible, ouais. Ça dépend où t'as marché avant, quoi.
Et tu mets, d'accord. Hein.
Je peux prêter des mocassins.
Dans la deuxième heure de l'after, on aura également un invité, une figure de l'arbitrage fin 20e siècle, début 21e. Gilles Vessière sera avec nous. Il sort un bouquin, une autobiographie, plus de 350 matchs arbitrés. On va parler plein de questions à lui poser, hein. Le pire entraîneur possible qu'il a saoulé pendant sa carrière.
Le parking du Parc
des joueur Prince. Le plus élégant, le parking du Parc des Princes, l'épisode Luis Fernandez, notamment, qui lui bloque la sortie. On va revenir sur plein d'événements, notamment ce Lyon-Lens en 2002, match du titre qu'il a arbitré la finale du championnat de France. Ce sera une séquence revival. Et puis, Emmanuel Macron a visé les sceptiques, les critiques au moment de l'arrivée de Lucien Riquet, dont tu faisais partie, Daniel. Tu voulais répondre ce soir au président de la République. Voilà.
Dans la le président de la République écoute l'after, mais j'ai l'impression qu'il a mélangé les années. Il ne savait pas de quelle année il parlait, parce que ça ne peut pas être de cette année.
Garde-en tout à l'heure, Daniel.
Elles étaient d'avant, et puis il ne les a visiblement pas toutes comprises, mais bon.
Tu mets la Marseillaise ou pas quand.
En même temps, il est un petit peu fatigué, le président. Il est un peu en bout de piste.
Oui, ouais. Il est un peu en train de lâcher la rampe tranquillement. Et puis les infos OM menacées d'exclusion de Ligue Europa pour non-respect d'un accord avec l'UEFA. On en parle aussi dans la deuxième heure de l'after. Vous nous appelez au 3216, WhatsApp 0612 424 424 pour envoyer vos messages. Également, on est en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Vous le savez, le direct, c'est Roland Garros. Encore une surprise, un gamin de 20 ans peut-être en demi-finale de Roland. Eric Salio, bonsoir.
Bonsoir, une surprise. Ils se tiennent au classement ATP, hein. Mensik est 27, Fonseca est 30. Et c'est vrai que Fonseca a marqué les esprits en éliminant Djokovic. Il est mené 2-0, le Brésilien. Mais la réaction est là, puisqu'il vient de breaker d'entrée de troisième manche son adversaire. Alors, Mensik, ça peut être fabuleux. Et puis, parfois, ça pète un casque. Et là, il a pété un boulon, puisqu'il vient de tenter un ace sur deuxième balle à 208. Ça lui coûte une double faute. Et donc, un break. Est-ce que cette partie est relancée? On l'espère. Je rappelle quand même que Fonseca a effectué deux remontadas dans ce tournoi. Donc, j'avais 203.
Okay, ce serait pour moi, j'étais en train de me hyper Fonseca, là. Et s'il perd ce soir, quelle déception.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a tous les Brésiliens, là, comme l'autre soir, là?
Joao! Il va avoir du mal à gratter des places, hein.
D'accord.
C'est pas évident. Maintenant, il n'y a plus vraiment de marché noir, tu sais. Très bien. C'est compliqué de.
Ah, parce que t'avais au marché noir, t'as un bel exemple.
Non, mais souviens-toi, il y avait des reportages, t'as les portes d'Auteuil, tu sortais la liasse de billets,
tu fais la promotion du marché noir.
En revanche, ça existe encore,
les. Pas de problème, hein, Eric.
Eric, ça existe encore, les anciens joueurs de la français qui revendent des places à invitation de la Fédé ou pas? Ça existe encore, ça?
Je suis pas au courant de ça.
T'es pas au courant de ça? D'accord. Ok. Eric, à tout à l'heure. Alors, Damien. 6 saisons à Monaco, pourquoi tu pars de Monaco? Pourquoi tu décides de quitter la Turbie? Région magnifique, t'as adoré la vie, hein. Nice, Monaco, Cap-d'Agde,
région
superbe.
Magnifique région. Il y a du passage là-bas en plus, on voit du beau monde.
Tu vois du beau monde. Alors pourquoi tu pars de Monaco finalement après 6 saisons merveilleuses sur la Côte d'Azur?
Bah déjà 6 saisons, c'est vrai que dans un club comme l'AS Monaco, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette exigence du haut niveau, je trouve que c'est un beau parcours. C'est un club que je remercie parce que pendant 6 ans, il m'a permis de me développer. En tant que coach, en tant qu'être humain, il m'a permis aussi de voir plusieurs méthodologies de travail, de voir comment fonctionne un club de très haut niveau. J'ai pu aussi participer à des campagnes de Ligue des Champions, Europa League, en tant qu'entraîneur adjoint. Donc en tant qu'expérience, c'était vraiment vraiment bien. Mais sauf qu'à un moment, il faut voir aussi autre chose, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, et puis assouvir une certaine ambition de se développer.
C'est-à-dire quoi? Être numéro 1 un jour, pas rester un éternel numéro 2, c'est ça?
C'est en effet, je pense qu'aujourd'hui, je me sens prêt à être responsable d'un projet et puis être à la tête d'une équipe, oui.
Et pourquoi pas à Monaco d'ailleurs? T'as une expérience, tu connais pas mal de joueurs là-bas, les structures du club. Pourquoi ils t'ont pas un jour nommé numéro 1? T'en as vu 4 défiler?
Parce que tout simplement, pour coacher un club comme l'AS Monaco, je pense qu'il faut avoir une certaine expérience déjà.
On a vu des exemples de jeunes entraîneurs sans expérience qu'on a lancé. Évidemment, à Lyon, on pense à Pierre Sage. Il y en a eu d'autres. Digard est arrivé un petit peu comme ça, sans qu'on sache véritablement s'il avait l'expérience. Toi, c'est parce que Monaco était un trop gros club, que la direction du club voulait des têtes d'affiche un peu connues, ceux qui sont venus, moi, Uther, parce qu'il venait de Francfort, Niko Kovac avait été en Allemagne, au Bayern, Francfort, lui aussi d'ailleurs, il me semble qu'il avait été à Francfort, ouais. Niko Kovac. C'est parce que c'était la particularité du club qu'ils n'ont pas voulu faire confiance à un gars qui n'avait pas coaché avant?
Non, déjà, il faut avoir l'humilité, c'est que là, c'est un club qui est quand même en Ligue des Champions. lors de cette saison. Donc de lancer un jeune coach, ils ont déjà été très courageux. Je trouve qu'il faut leur donner ça, de lancer Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, qui avait cette expérience lui aussi en début de saison de la Coupe d'Europe avec l'Union. L'année dernière, elle est champion avec l'Union. Moi, je trouvais ça vraiment bien que justement ils aient ce courage
de
mettre un jeune coach,
puisqu'il le vire 6 mois après.
Ça a pas marché, peut-être pour différentes raisons, mais.
Mais comment ça peut marcher à Monaco? Est-ce que tu as réussi en 6 ans à percer le mystère monégasque? Aujourd'hui, j'échange avec un coach à qui je demande comme ça, Monaco, ça pourrait être branché. Il me répond, peut-être, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, je l'ai souvent entendu, pas pour les bonnes raisons en parlant de Monaco. Comme pour certains joueurs, pas pour les bonnes raisons. Il y avait l'époque où les mecs y allaient à 35 ans en fin de carrière, les entraîneurs, tu sais. À 18h, par exemple, bon, il est plus là, donc, que tu confirmes ou pas, peu importe, je le dis, il est arrivé à Monaco, il est un peu devenu foufou, à 18h, les grands restaurants, la Côte d'Azur, les yachts, les machins. Monaco, c'est très difficile à coacher. Damien.
C'est difficile à coacher, mais si on revient au constat sur les 6 saisons que moi, où j'ai eu le bonheur d'être au club, c'est quand même un club qui finit troisième.
Mais
sixième.
Il y a des moyens, Damien. Il manquerait plus que ça en prime.
Mais je veux dire, c'est un club qui a fait preuve d'une très belle régularité sur les dernières saisons.
Donc, il y a des moyens.
Et puis, il y a des moyens, mais t'as aussi beaucoup de contraintes dans le club de l'AS Monaco.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que tu n'as pas forcément beaucoup de revenus par rapport au stade. Ce qui fait par rapport à d'autres clubs, t'as un certain désavantage aussi.
À l'arrivée, t'as un top 3 budget en France quand même.
T'as un mécène qui arrive déjà.
Non, mais le mystère dont je te parle, c'est l'entraîneur qui arrive pas à motiver des joueurs sur toute une saison. C'est des joueurs qui ressemblent à des intermittents du spectacle. Pendant 2 mois, ils sont bons. Et puis, c'est un peu comme quand on fait la vanne. Dès qu'arrive le printemps, le casino, le café de Paris, la balade en yacht. Mais à l'arrivée, il y a des trucs qui sont vrais quand on dit ça.
Je trouve que c'est un cliché, un peu, sincèrement. Non, je trouve que c'est un cliché, cette histoire du au mois d'avril. Ça, c'est quand tu connais pas Monaco, ou alors que c'est peut-être ta première saison et que tout de suite tu vois deux Ferrari dans la rue et tu penses que t'es en vacances.
Oui, c'est ça.
Alors, mais non, parce que la réalité, c'est que là-bas, toute l'année, c'est ton contexte, c'est ton environnement qui est quotidien. Donc, c'est-à-dire que, à la fin, tu fais presque même plus attention et t'as ton objectif, c'est d'être, pour moi, sur le terrain performant. Et d'ailleurs, toi, je vais te dire, sur les dernières saisons, il y a toujours eu des séries qui ont été extraordinaires sur les fins de saison, là où justement, soi-disant, il y a beaucoup de distractions.
Après, il y a des trous d'air dans la saison.
Et puis pour terminer, je pense pas que l'AS Monaco est le seul club à avoir aussi des trous d'air parfois lors d'une saison.
Ça fait partie d'une saison.
La question, c'est donc. T'as raison, moi je crois pas que ce soit lié au le fameux contexte émollient, tout ça. Bon. Au contraire, les Monégasques ont fait des matchs incroyables contre le PSG cette année. Enfin, toi, il y a eu des moments incroyables, des moments ponctuels.
On a l'impression qu'ils se motivent contre les gros.
Alors, en partie, effectivement, c'est une des questions. Donc, est-ce que c'est l'éternel truc qui finalement n'est peut-être pas assez impensif, le problème du manque de pression populaire? Est-ce que ça joue pas? Parce que dans plein d'environnements, quand même, ça peut être trop pressurisant comme à Marseille, mais ça peut être utile, hein, une pression populaire. Parce qu'on a l'impression que les joueurs, finalement, comme dit Daniel, ils sont bien motivés contre le PSG ou dans certains gros matchs, puis beaucoup moins en Ligue 1 sur d'autres matchs.
La pression peut te galvaniser, peut te motiver, mais aussi, je pense que le calme peut aussi être bénéfique dans certains moments, dans certaines situations. Toi, je vais te prendre, on a une situation la saison dernière où on va jouer à Montpellier, qui est dernier. Et on arrive à perdre ce match contre Montpellier. Donc derrière, forcément, il y a une petite réunion avec les supporters, avec Adi. Ça se passe très bien dans la. C'est pas bon enfant, mais c'est dans le respect. Il y a une discussion. Et derrière, on a cette tranquillité qui nous permet, à la fin, de finir troisième.
Et puis, ce qui peut être un inconvénient, le manque de pression peut aussi être un avantage quand ça va moins bien, justement. Pour.
Et puis, alors, parfois, ça marche d'ailleurs. On peut pas se cacher. Non, mais là, je suis pas d'accord avec vous parce que vous vous cachez derrière l'environnement, mais ça voudrait dire que l'AS Monaco, si vraiment l'environnement était le problème, n'aurait jamais réussi. Il y a quand même eu des saisons, et je pense à la saison à Kylian Mbappé. Enfin, il y a quand même.
Je suis d'accord, Monaco fonctionne. C'est pas ça qu'on dit, c'est que.
On va pas se cacher derrière l'environnement.
Non, mais c'est quelque chose. Est-ce que Monaco sous-performe par rapport à ses moyens?
Non, en fait, c'est la qualité.
Je dis qu'il y a des moments difficiles et que, effectivement, parfois, il y a des. On a le sentiment qu'il y a des coachs qui arrivent un petit peu mieux à gérer tout ça et à motiver les joueurs en permanence. Et puis, il y a eu des équipes extraordinaires ces dernières années à Monaco. Et parfois, on se dit, ouais, ils pourraient faire mieux, ils ont un gros budget. Cette année, par exemple, c'est clairement un échec.
Thiago Scuro,
il envoie le podium, ils ont l'oseille pour le podium, ils finissent 7e.
Quel échec, Daniel, quand tu regardes ce groupe.
On va continuer.
Mais moi, avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité, quand tu regardes ce groupe, c'est pas, il n'y a pas assez de qualité pour finir dans le top 3. On va en parler, bien sûr.
Au début de la saison, par rapport à Lens. Mais tu plaisantes, t'as Lamine Camara au milieu, t'as
Zakaria. Donc, toi, tu penses qu'avec ce groupe-là, tu peux finir top 3?
Mais bien sûr, tu plaisantes ou quoi?
Le truc,
c'est que tu donnes ton sentiment à la fin de la saison quand t'as vu.
Paul Pogba, alors champion du monde, c'est censé gagner. C'est pas ça. Tu dois prendre le contexte général.
Damien, tu vas nous répondre dans un instant justement à la question. Puis j'aimerais qu'on parle du travail de tes coachs.
Au début de la saison, sans Garay, personne ne sait qui va faire cette saison.
Les quatre coachs que t'as connus.
On va parler également de l'OM, c'est devant.
Des individualités.
D'Akliouche. PSG, c'est devant.
Mais Lyon, c'est jamais devant.
Allez, pause. Dans un instant, avec Maxime Chano, Daniel Riolo, Maxime Chano et Flo Gautreau, j'ai dit deux fois, Damien Perrinel aussi, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'after foot. RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Maxime Chano, Florent Gautreau, Daniel Riolo, RMC, l'after, 22h18. Et notre invité, Damien Perrinel, 6 saisons à Monaco, il nous revient pour nous raconter cette expérience-là, la saison écoulée il y a quelques jours, terminée par une 7e place. On va en parler, savoir ce qui n'a pas marché. Tiens, d'abord, réagis à ce que disait au débat Daniel Riolo, Maxime Chano. Où était la juste place de l'effectif monégas selon toi? Est-ce que tu avais un effectif avec ton coach, un peu Cognoli, top 3 Ligue 1, tu penses, toi?
Non, mais je pense que
déjà. T'as vu tous les matchs, hein?
On mélange beaucoup de choses. C'est vrai que dès l'extérieur, on a l'impression. Et oui, c'est vrai que Monaco bénéficie de certains avantages et on pense que c'est un club riche, plein d'oseille, comme le dit Daniel souvent. Mais il y a ça, encore une fois, beaucoup de contraintes. Il y a le fair play financier qui t'impose d'avoir une masse salariale quand tu veux jouer l'Europe. D'accord?
Ça, c'est valable pour tout le monde, ça.
C'est valable pour tout le monde. Mais c'est un budget qui est inférieur à Marseille, qui est inférieur à Paris, qui est inférieur. Je pense que tu dois te situer pas loin de la 4e, 5e place au niveau du budget.
Oui.
Premièrement.
T'as quelques avantages fiscaux à Monaco aussi.
T'as des avantages fiscaux, mais t'as pas de recettes. Encore une fois, t'as pas de recettes de stade.
Non, mais pour faire signer un joueur étranger, tu as des avantages.
C'est plus facile, ouais, bien sûr. Mais je veux dire, il y a aussi des contraintes. Il y a aussi des contraintes. Et c'est pas si simple. Et ce qui fait que. T'es obligé aussi de vendre, je pense, pour 130 millions d'euros
comme tous les clubs
la
en
saison
France.
Dernière
comme tous les clubs
pour pouvoir être à l'équilibre. Ça, c'est plus sur l'aspect financier.
La question, c'est la qualité de l'effectif au début et le classement final.
C'est ça.
Je suis désolé, il y a un déficit.
Vas-y, Damien. T'es d'accord avec ça ou pas?
Il y a un déficit. Après, encore une fois, quand tu joues la Coupe d'Europe, c'est pas le même championnat que quand t'as un match par semaine.
Voilà.
Et ça, c'est autre chose. Et puis, t'as des circonstances cette saison qui ont fait que t'as eu l'opportunité, on va voir ça comme ça, de lancer beaucoup de jeunes joueurs aussi, parce que t'as eu pas mal de blessures et il y a certains joueurs qui ont performé, jeunes joueurs qui ont performé, mais qui ont peut-être trop joué par rapport à ce qui était prévu et in fine c'est peut-être là où on a manqué de constance par rapport à la jeunesse de notre effectif. On a l'un des effectifs les plus jeunes encore une fois de Ligue 1.
Et puis vous avez pas été aidé par les blessures aussi, hein?
Il y a eu certaines blessures évidemment qui nous ont un peu plombé
cette saison, ouais.
Et encore Zakaria, c'est l'une des saisons où il a été le
moins Golovin, Minamino,
il est terminé en défense aussi, ça a été un des choix forts là pour le coup. Juste un point pour finir là-dessus, puisqu'on parlait des coachs tout à l'heure, et on va les refaire un par un, je crois. Mais quel est le profil après ce que t'as vu? Quel serait le bon profil de coach pour Monaco? Parce que finalement, on a vu des gens.
Ce sera Philippe et Louis, hein, de toute façon, voilà.
Oui. Mais quel est le bon justement? Est-ce que on peut demander s'il peut cocher ses cases? Mais quelles sont les qualités d'un coach pour réussir justement avec ce que t'as dit là, ce contexte, ce type de joueur et l'effectif en gros qu'il a déjà, même s'il va évidemment être touché?
Il y a peut-être un mix de tout ce que j'ai connu,
j'ai envie
de te dire. Déjà, en effet, il faut vraiment appréhender cet environnement et ce contexte monégasque. Et, parce que quand tu entraînes Monaco, tu entraînes plus qu'un club de foot, tu entraînes le club représentant un pays, une principauté.
Mm-hmm.
Donc il te faut déjà avoir une certaine connaissance de cet environnement. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est un club qui a aussi l'ADN de développement de jeunes. Mmh. Ça a toujours été un centre de formation qui a été performant. Il faut avoir un football léché. Et je pense que sur les quatre coachs que j'ai pu expérimenter, où on avait Sébastien Pocconulli avec des idées neuves, avec beaucoup d'énergie. On a eu Adi Hütter, qui lui en termes de management était très bon, c'était une référence de pouvoir emmener tout le monde vers un projet unique. Ensuite, tu avais Philippe Clément qui était lui aussi qui est reconnu pour développer des jeunes joueurs, méthodologie d'entraînement qui était top. Et puis tu avais Nico Kovac qui avait un certain charisme aussi, une certaine méthode d'expérience. Donc je pense que c'est un mix de tout ça en effet, ouais.
Et Philippe et Louis, de ce que t'en sais, toi, ça te paraît-tu un bon choix ?
Je ne connais pas du tout. J'ai juste vu les matchs qu'il avait joué contre le PSG, il me semble, en Coupe du Monde des clubs. Mais donc, je ne vais pas me prononcer sur.
Damien, sur l'actualité, là, Pocognulli, qui ne fait même pas une saison, qui est à la 8e journée, qui est viré avant la fin de son contrat, un an avant la fin de son contrat, c'est injuste.
À distance.
Il aurait mérité une deuxième saison ou pas, franchement ?
C'est dur de mettre peut-être cette saison en demi-teinte. Les responsabilités, elles sont partagées, mais elles sont partagées entre tout le monde. C'est-à-dire, elles sont partagées. Tout le monde a fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. Peut-être l'intendant a fait des erreurs. Donc c'est délicat.
Directeur sportif. Après, surtout.
Après, pardon.
Directeur sportif. Tu sais que les supporters en veulent énormément.
Thiago Scuro.
Ouais. Mais je pense que aujourd'hui, même pour la direction. C'est dur de licencier un coach parce que quand tu le prends, tu formes une équipe, tu formes un projet. C'est certainement une décision qui a été très difficile à prendre pour la direction. J'en suis convaincu.
Le reproche qu'on fait, et on en a parlé dans l'after récemment, on s'est dit, dans un cas comme ça, où Monaco termine à cette place-là, c'est un peu l'équivalent du Milan AC en Italie, où tout le monde est parti. Et tu as raison de dire que finalement, c'est la solution classique, tu vires le coach, alors que sans doute qu'il fallait une révolution de palais, sans mauvais jeu de mots, à Monaco cette intersaison.
Il y a eu
j'ai
fait partie de cette aventure. Donc pour moi aussi c'est le moment justement de la réflexion, de voir ce qui a été, ce qui a pas été, de qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Et je pense que si tout le monde a peut-être cette analyse et cette autocritique de ce qui n'a pas fonctionné, le but encore une fois c'est de
toi,
pas recommencer.
Tu as compris ce qui n'avait pas fonctionné, même dans le management de Pocognulli quand il est arrivé, de tous les coachs avec qui tu as bossé, c'est celui avec qui le courant est le moins bien passé.
Non, pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Non. S'il y a eu il y a eu beaucoup d'échanges avec Sébastien Pocognulli. Encore une fois, avec sa méthode de travail, j'ai pu apprendre une nouvelle manière de voir l'entraînement, une nouvelle méthodologie. Donc chaque expérience, encore une fois, est enrichissante. Et puis moi, j'espère également lui avoir fait partager l'expérience que j'ai pu avoir.
Il y a des coachs principaux, entraîneurs principaux, qui partagent plus leur méthode avec l'adjoint. En plus, Pocognulli arrive avec son adjoint Kevin Miralas, qui est son pote. Il est très proche. Quel est celui qui a plus partagé avec toi ? Il y a différents types d'entraîneurs. Et d'adjoint, par définition aussi. Est-ce que parfois tu t'es senti un peu à l'écart d'un travail, quoi ?
Non, pas forcément, parce que justement, le boulot d'un adjoint, c'est d'être force de proposition. C'est de rendre l'entraîneur meilleur et que l'entraîneur te rende meilleur.
Lui, il m'a l'air en forme, fais-le jouer lui. Au moment d'un changement, fais rentrer lui plutôt que lui. C'est quoi proposition d'un adjoint, en fait ?
Les propositions d'un adjoint, c'est peut-être sur des schémas tactiques, sur des propositions d'entraînement, de contenu d'entraînement, d'analyse de l'adversaire. Tiens, regarde, voilà. Et puis après, c'est à toi de faire passer tes
idées. Zakaria, qui recule. Quand ça a été fait, vous en avez parlé. T'as trouvé que c'était une bonne idée. De qui est venue l'idée? Comment ça s'est passé, la défense qui est passée à 3 avec Zakaria qui recule?
C'était Poco, ce qu'il faisait.
À l'Union, il jouait des joueurs, il jouait déjà à trois.
Non, mais qui jouait à trois.
Mais le choix de Zakaria, de faire référence à Zakaria.
Il y avait eu aussi.
Parce que les deux autres, ils n'avançaient pas. Ils avaient besoin d'aide.
Non, mais c'est vrai. T'avais des blessures à cette époque-là. Je crois que ça se produit contre la Juve en Ligue des Champions pour la première fois, il me semble. Et c'est parce que on sentait, et Sébastien Pocognulli, le coach, sentait que cette équipe était plus performante avec une base à 3. Et puis c'est vrai que la vitesse de Zakaria nous a vraiment aidé sur
cette période. Mais quand il l'a fait, t'as trouvé que c'est une bonne idée? Il t'en a parlé avant? Comment ça se passe, en fait?
Bien sûr, on échange. Et puis à la fin, la discussion est toujours ouverte. C'est ça qui est bien dans un bureau, justement. Et par contre, et parfois tu peux avoir des désaccords et parfois tu es complètement d'accord. Mais une fois que tu sors du bureau, C'est clair. Et on va tous dans la même direction.
Attention, et les choix, par exemple, à un moment, ça a été clair, le trio offensif, Mika a disparu.
Mika Biarritz.
On pensait, après sa saison dernière, que c'est le gars qui était capable de mettre une vingtaine de buts dans une saison. Bon, ça s'est mal passé. Un choix clair a été fait. C'était Balogun qui jouait. Comment tous ces choix, comment t'as accueilli tous ces choix? Parce que toi, t'étais là avant Pocognoli. Donc, comment t'as vu tout ça, toi?
Mais je pense que le coach a un style de jeu, un projet de jeu. Et d'ailleurs, toi, Balogun, moi, il me fait penser à Promesse, c'est ça, hein, ouais. Qui était à l'Union.
À l'Union, ouais,
et je pense qu'il a retrouvé joueur, à travers l'attaquant.
Non,
Canadien. Ah, Promesse David. Ça. Comment il s'appelle?
Non, toi, tu parles de Quincy Promesse.
Ouais. Toi, ça. Ouais. Il y a des soucis derrière.
C'est ça. Ouais. Et derrière, et c'est un joueur, je pense, ouais, qui correspondait plus
au problème au Spartak.
Au schéma tactique du coach.
Promesse David.
Okay. Un autre.
Voilà. Les caractéristiques correspondaient à ce que recherchait.
Et ça a fonctionné.
Est-ce que ça a fonctionné? Et puis derrière, c'est vrai qu'il a, Ballot a été en feu toute la saison.
Oui, absolument. Il a fait.
Et maintenant, par rapport à ta situation, ça m'intéresse parce que le fait justement que toi tu restes en place et que des nouveaux entraîneurs à chaque fois arrivent, est-ce que justement t'es pas trop étiqué ancien entraîneur quand un nouvel entraîneur arrive? Est-ce que t'es pas vu presque, excuse-moi du terme, hein, comme une taupe, enfin, entre guillemets. Et comment toi tu t'adaptes à ça? Est-ce que c'est compliqué quand un nouvel entraîneur arrive? Est-ce que tu te mets justement au diapason? Ça peut être quand même un petit peu difficile à trouver ta place finalement.
Non, justement, parce que c'est là où le club est fort. Parce que la situation telle que tu peux la percevoir toi, ça peut être la même avec le préparateur physique.
Ah
ça
oui,
peut être le même avec l'entraîneur des gardiens.
Après,
ça peut être la même
proximité, évidemment.
Bien sûr, mais justement, moi, le rôle et le boulot, encore une fois, d'entraîneur adjoint, c'est de faciliter la tâche, ouais, et de faire gagner du temps à l'entraîneur, ouais, et de tout de suite lui montrer que moi je suis là pour t'aider et je suis là pour qu'on aille dans la bonne direction.
Et ça a été le cas avec
Poco? Ouais, bien sûr que ça a été le cas avec le coach.
Et est-ce que
pas que moi d'ailleurs, mais ouais, tout le monde, tout club. Ouais.
Est-ce que le mystère Golovin va pouvoir nous aider à comprendre ce joueur? Parce que nous on comprend pas.
Golo, quel joueur? Bien sûr, quel joueur?
Quel joueur, c'est un mec qui fait 29 très bons matchs dans la saison.
Il fait 4 matchs dans l'année. Je connais ton exigence, je connais tes. Quand même, le mec, il fait 4 matchs dans l'année, Damien.
T'es dur.
C'est bon, t'es
dur.
Je suis Damien.
T'es dur.
T'es plus salarié de Monaco, laisse Monaco, là, tu peux y aller.
Reprenez les stats de Golo. Ok. Je pense qu'il fait 27 matchs la saison dernière. Là, celle qui vient de te passer.
Et combien il en fait de bien? 4?
Il en fait 25 avant. C'est un joueur. En plus de ça, avec la sélection. Alors, il y a moins de matchs de sélection. Il fait 7 matchs de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même un joueur. En revanche, quand Golo va, c'est vrai que l'équipe va mieux.
Ah bah, c'est vrai. Voilà. Il passe souvent très bien, Golovin.
Et c'est là. Et c'est un travail. C'est la régularité, tout simplement. C'est la constance dans la performance. C'est un joueur qui est exceptionnel.
Mais ça, on voit bien.
Parce que lui, justement, il n'est pas l'un des symboles. Tu vois, quand tu constitues une équipe, est-ce qu'il n'est pas l'un des symboles justement de ce qui fait du mal à Monaco, même à l'extérieur? C'est-à-dire que tu vois l'image que nous on en a. Alors peut-être qu'elle est un peu biaisée, mais quand même, c'est aussi l'image qu'en ont les gens à l'extérieur, en se disant ouais, c'est un super footballeur, tout le monde le sait. Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'il est à Monaco, parce qu'il a choisi un cadre finalement avec une pression quand même moindre de la part des supporters et du reste, que finalement il n'est pas performant et qu'il est là en train de, entre guillemets, de cachetonner quoi?
Non, je vous trouve globalement
dur,
sévère. Oui, on a le droit d'être exigeant avec des joueurs de ce talent. Mais encore une fois, si j'étais venu la saison dernière, en fin de saison dernière, et qu'on avait terminé troisième, on n'aurait pas eu ce débat, ouais, tout simplement. Et je pense que c'est le premier à avoir conscience que la saison est en deçà de nos attentes.
Et tu vois, sur Golovin, moi, ça me fait penser un peu, pour reprendre l'exemple de Luis Enrique avec le PSG et du coach qu'il faudra à Monaco, Golovin est typiquement le genre de joueur qu'un coach X, je sais pas lequel, pourrait regonfler en disant mais attends, tu peux faire un truc de dingue, tu peux être le leader de cette équipe, tu peux faire. Ça n'a pas été le cas. Alors je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que n'importe qui peut être Luis Enrique, n'importe qui peut changer tous les joueurs comme Dembélé, comme il l'a fait avec Dembélé, mais c'est ce gâchis-là, toi, ce petit manque qui doit frustrer les supporters de Monaco.
Ouais, bien sûr. Encore une fois, je comprends peut-être cette frustration de la part des supporters, mais quand il est pas là, tu le sens aussi. Mm-hmm. Et tu sais que quand tu fais ton équipe et que tu t'as Golo qui est absent, tu dis bon allez, qui je vais mettre pour remplacer, parce que tu sais qu'il t'amène des choses. Et puis c'est un joueur qui est vachement polyvalent. Et après, quand on parle de fragilité de Golovin, c'est un joueur, c'est peut-être l'un des joueurs qui court le plus sur le terrain, qui est le plus généreux dans son effort aussi.
Bon, on va faire une pause. Dans un instant, on va parler de Paul Pogba, forcément d'Akliouche également avec toi, Damien. T'es avec nous encore pendant quelques minutes dans l'after. Le tennis, Roland Garros, qui va se qualifier pour les demi-finales, Eric Salio. Mensik ou Fonseca, où en est-on?
Ouais, c'est un match que Sacha Zverev regarde avec évidemment beaucoup d'attention, puisqu'il prendra le vainqueur vendredi. 2-7-0 pour Jakub Mensik, 6-4-6-3. Fonseca est revenu à 3 partout. Et il a 2 balles de break pour repasser devant face à Mensik qui faiblit légèrement. Il y a une occasion à prendre pour le Brésilien.
Allez, reste avec nous, RMC L'After, 22h32, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Daniel Riou est là, Florent Gautreau, Maxime Chanou aussi, et notre invité Damien Perrinel. Après 6 saisons à Monaco, il a pris sa liberté. De ton pas encore, on sent que tu ne veux pas t'attaquer à l'AS Monaco, hein, certains joueurs, notamment dirigeants et anciens entraîneurs. Damien, pas tout dire peut-être ce soir non plus, hein, faut pas insulter l'avenir, on ne sait jamais. Hein, un retour à Monaco un jour peut-être, hein, non?
Quel club? Quel club? Ce club, c'est un bijou. Vraiment, c'est comme ça que je le décris en tout cas. C'est un club magnifique.
Ah mais ça là-dessus, c'est
incroyable, la région.
Ah non, ça, je suis d'accord. Moi, Monaco, c'est formidable. Le maillot, le lien qu'on ne sait pas assez entre la principauté, ce que représente la principauté, à quel point c'est aimé par les gens de Monaco. Non, il y a vraiment un truc. Mais après, à la hauteur de ce que j'estime être vraiment un très beau club. Il y a parfois une déception, une espèce de sentiment qu'on va pas au bout des choses, qu'on se laisse un petit peu endormir. Alors, vous dites que c'est un cliché. Peut-être, je veux bien l'entendre. Pourquoi pas? Peut-être qu'on en fait trop sur le côté cliché monégasque. Je sais pas. Toi, t'as été dedans.
Non, mais c'est génial parce qu'on parle avec des mecs qui sont passés par Monaco, qui ont joué à l'AS Monaco et qui nous disent effectivement la grande ville, ont vécu à Monaco aussi. Casino, sortie, boîte, toute la Côte d'Azur jusqu'à Saint-Tropez. Ça, c'est une réalité que t'as. Peut-être quand tu vis à Paris aussi, mais que t'as pas quand tu joues à Rennes.
Bien sûr que tu l'as cette réalité, mais derrière, je veux dire, les joueurs qui intègrent le club, je peux te garantir qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Monaco, de jouer à Monaco pour
sortir en boîte.
Exactement.
Il y en a qui font 3 heures de route après un match pour sortir à Paris, par exemple. Ouais. Et tant que de temps, c'est quelque chose
d'en cher, Maxime. En taxi parfois.
Et en taxi aussi parfois.
Non, Guignon-Paris, c'était trop loin.
Tu pars du Havre pour aller à Paris, ça arrive aussi parfois après un match.
Mais bon, côté 4, tu pars.
Alors, l'anecdote, le Havre-Paris en taxi, elle est vieille. Il faut s'en souvenir de celle-là.
Tout à fait. Aussi vieille que ça.
Je dirais que 2011, non?
Ouais, 2012,
11. C'est juste après
Nice,
je pense.
2011. Il a parfaitement raison.
Vous vous rappelez qui était dans la voiture?
Griezmann.
Griezmann était le chef de la bande.
C'est ça l'histoire. Après, la composition exacte des 4 ou des 5, je ne sais plus.
Mvila. Yann Mvila était là. Chris Mavinga.
Chris Mavinga
était dans le taxi.
Il y a du Jimmy Brown dans l'oreillette. Hein.
Ah, Mavinga, c'est Jimmy. Ouais. Tout à fait, il s'en souvient.
Griezmann était le chauffeur.
Bon, alors, parlons d'Akliouche.
Celui qui a appelé le taxi.
Damien, un joueur auquel tu es lié étroitement, c'est Marnes Akliouche, qui va disputer son premier mondial dans sa carrière. Cas intéressant, tu l'as eu dans le groupe élite que tu dirigeais, c'est ça, à l'AS Monaco?
Alors, il avait déjà intégré le groupe professionnel quand le groupe élite a été créé.
D'accord.
Voilà. Mais c'est vraiment le joueur que tu as suivi. T'en parles toujours avec des. Enfin, tu m'en as toujours parlé. Je sais pas si on dit l'expression, on l'accepte, étoile dans les yeux. Enfin, avec beaucoup d'affection. Allez, voilà.
Bien sûr, beaucoup d'affection. Mais encore une fois, faut aussi remettre les choses en ordre. Hein. C'est-à-dire que quand t'as un joueur comme Marnes qui accède au très haut niveau comme là, ce n'est pas grâce à Damien Perrinel, c'est grâce à lui, premièrement. C'est grâce à tout le club, tout ce qui a été mis en place. Justement, pour qu'ils puissent accéder, ça va à des analystes vidéo, ça va au centre de formation, aux formateurs. Donc, je suis juste une pièce du puzzle.
Tu avais le droit de le trouver formidable et d'avoir été derrière lui et de l'avoir connu très jeune. Donc, nous, on veut savoir comment tu as vécu sa progression.
Mais bien sûr que c'est un plaisir de voir Marnes s'éclater sur un terrain. Et puis, là aussi, quel talent, quel joueur.
Tu savais très vite, quand tu l'as découvert à la Turbie, que ça allait faire équipe de France, Marnes Akliouche.
C'est présomptueux de penser, quand on voit un joueur entrer sur le terrain en Ligue 1 à Monaco, que ça va être équipe de France. C'est Philippe Clément qui l'avait lancé à l'époque, et c'est Nico Kovac qui l'avait pris la première fois dans le groupe d'entraînement. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, je servais de lien entre les joueurs de l'académie et ce groupe professionnel.
Il fallait, fallait faire bosser sur des aspects précis. Tu
voilà,
l'as fait bosser
et, puis,
sur...
et puis derrière, on avait ce, ce développement individuel qui était mis en place.
Qu'est-ce qui lui manquait
sur
au début
quoi, ouais, voilà, sur quoi tu l'as fait bosser
bah, Marnet, c'est simple. C'était bien évidemment ce, cet aspect un peu athlétique, pouvoir résister. Et aujourd'hui, c'est très dur de le bouger, même s'il paraît encore une fois
assez frêle.
Et
costaud. Il multiplie les efforts.
Va le bouger.
Ouais. On raconte ça de Messi d'ailleurs. On raconte que quand on remarque des, certaines images sur les chocs et les blocs, il a beaucoup travaillé. Évidemment, on sait, on connaît l'histoire de Messi sur ça. Donc c'est possible effectivement de renforcer musculairement, même si ça ne se voit pas forcément.
Il y avait un autre truc. Il y avait une autre chose qu'on se disait, et je crois parce qu'après j'ai vu des chiffres là-dessus que c'était une fausse idée. C'était que c'était le joueur technique. Voilà, je sais pas aller plus loin. Tout le monde a compris, mais que dans le football moderne où il faut faire, où il y a beaucoup d'intensité, où il faut multiplier les courses, en gros, il faut avoir une bonne caisse et tout. On disait, ah, est-ce que c'est pas juste un joueur technique et tout? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Et ça, en fait,
cette
réellement,
année, il
est.
Ouais.
Ouais, voilà.
Ouais. C'est un joueur qui est capable de répéter les efforts.
Ouais, ça,
ça n'a pas été le cas sur les saisons précédentes. Là.
Ça, c'est chiffres qui ont beaucoup, beaucoup évolué là-dessus.
Mais ouais. Ça a évolué. Après, avec Marnès, il y a souvent une incompréhension par rapport à son âge. Parce qu'aujourd'hui, il a 24 ans.
Il n'est pas, si jeune.
Et donc, on dit, c'est vrai qu'il n'est plus si jeune, donc on peut moins lui permettre certaines erreurs, ainsi de suite. Mais au très haut niveau, c'est quelqu'un qui a commencé assez tardivement, parce que c'est un joueur qui est à maturité tardive, on appelle ça. Donc, je crois qu'il a vraiment 3 ans, 3 saisons.
21 ans à peu près.
De très haut niveau. Donc, il
reste jeune quand même.
Voilà, donc il commence un petit peu, je crois, avec Philippe Clément qui le lance. Derrière, il y a un épisode avec Adi, où, sur la première saison d'Adi Hutter, où il commence à entraîner de plus en plus l'équipe, et ça devient un titulaire indiscutable la saison dernière. Et puis là, donc cette année, avec.
Non, mais il y a un trou d'air cette saison. Il y a 4 mois, on dit il va pas au mondial.
Mais justement, c'est peut-être là où aussi Marnès, c'est l'un des joueurs les plus fiables et les plus robustes de l'effectif. En 3 ans, je suis curieux de savoir combien de matchs il a pu manquer.
À manquer, c'est-à-dire
rater
d'être sur le terrain ou alors louper son match, c'est-à-dire la performance.
Blessure.
Ah oui, d'accord.
Ensuite, c'est un joueur qui a très vite assimilé sur la première saison avec Adi, on n'a pas la Coupe d'Europe, il me semble, et sur la deuxième saison, on a la Champions League. Il joue tous les matchs de Champions League, il joue tous les matchs de championnat quasiment, et là, cette année, il a aussi accepté le statut d'international. Et ça va vite quand même pour lui aussi. Ça va trois saisons. Alors, il a le droit peut-être d'avoir des moments où mentalement, il peut avoir un manque de fraîcheur. Je pense que sur Marnès, c'est plus parfois mental ou.
Alors, c'est intéressant parce que c'est pas ça. Ça, tu le disais, tu l'accompagnais là-dessus, tu lui disais quoi? Attention, maintenant, t'es international. Comment tu vis ça? Comment tu le gères? Est-ce qu'il y avait ce contact direct avec les joueurs? Ton rôle d'adjoint, notamment, peut-être plus confident qu'un coach principal?
Forcément,
avec Marnès.
Pas uniquement qu'avec Marnès, parce que tu fais pas de distinction. Je vais pas dire que c'était des contacts réguliers. C'est parfois quand. Il y avait des choses sur un ressenti. Toi, tu le prends à part et t'as peut-être en effet cette connexion avec lui parce qu'il te connaît depuis longtemps. On dit bon, allez, Marnès, là, maintenant, je sais pas. C'est juste des exemples, tu vois, que aller sur les efforts d'EF ou là, peut-être un peu aller retour de la simplicité. Mais encore une fois, c'était avec Marnès, c'était avec Madou Koulibaly, c'était avec Songoutou Magassa avant et c'était même avec, ça pouvait être avec Balogun, avec Thilo Kehrer. C'est un ensemble, en fait. On fait pas. Qu'avec les jeunes. Ouais. C'est quand il y avait des retours individuels, c'est avec tous les joueurs.
Sur Akiyush, et tu l'as dit là à l'instant, et moi je trouve que l'expérience internationale va lui apporter beaucoup parce qu'il l'a pris dans le bon sens, et notamment dans le sens que demandent Deschamps, enfin que demandent les entraîneurs à la plupart des joueurs, sauf Mbappé peut-être, c'est notamment de défendre. Et on a vu dans ces matchs qu'il a fait des efforts pour montrer, pour dire moi il n'y a pas de problème, je vais faire ces efforts-là. Moi je crois qu'il y a deux écueils, il y avait le physique, bon bah tu l'as dit, il y a ça, enfin le fait de défendre, et le fait de ne pas avoir trop de touches de balle pour faire la diff tout seul. Je trouve que lui là, ce défaut que Doué a parfois aussi, mais il a la qualité aussi de donner, quoi. C'est-à-dire de donner. Moi, je dis donner quand il faut donner, tirer quand il faut tirer, quoi. Pour moi, c'est ça la Benzema's touch, quoi, en fait, entre guillemets. Et je pense que toi, d'après toi, il a le mental pour ça, pour accéder sur ces trois critères à aller plus haut.
Je pense qu'il peut définitivement aller encore plus haut que ce qu'il a été. Peut-être qu'un changement d'environnement peut lui faire du bien.
Il est prêt pour le PSG? Tu penses?
J'ai aucune idée si le PSG.
Je pense qu'il est prêt
pour le très très haut niveau.
Est-ce qu'il est prêt à s'asseoir sur un banc de touche quand t'es international français?
Je vais te donner un exemple très concret. Alors, ça date il y a deux saisons, je crois, sur la première saison de Hadi. Il joue contre Marseille le match aller. On gagne et je crois qu'il met deux buts, une passe D sur ce match-là. Là, le match d'après, il est sur le banc.
Ouais.
Il joue 8 minutes. Pas un mot, ouais, pas une émotion, rien du tout. Ouais, mais tu sais comment c'est les jeunes aussi parfois.
Ouais.
Ça peut vite se dire, oh, j'ai marqué deux buts, j'ai fait une passe D, et attends, je suis sur le banc, je joue pas. Pas un mot, rien, à l'entraînement, rien.
Très bon entourage,
ça bosse,
bon
ça travaille, ça enchaîne.
Autour de lui.
Il joue 8 minutes. Derrière, il joue un autre match, je crois, il joue que 40 minutes, il est sur le banc, et, ou on le fait rentrer à la mi-temps parce que ça marche pas. Rien, pas de souci. Et donc, c'est quelqu'un, en réalité,
la bonne mentalité.
Mentalité. Exactement.
Et, en fait,
et tu vois, aujourd'hui, quand je vois les joueurs du PSG, c'est vrai que bah, ça devient un peu la référence où les Ramos, quand ils doivent rentrer sur le terrain, mais ils donnent tout pour le. Et je pense qu'il est vraiment dans cette mentalité.
Okay. On parlait justement du Paris Saint-Germain et de la possibilité de voir des joueurs arriver qui seraient d'accord, entre guillemets, d'être sur le banc, évidemment, en pouvant jouer 30 ou 35 matchs, parce qu'on connaît le calendrier du Paris Saint-Germain avec la Coupe d'Europe, la Ligue 1 et toutes les Coupes nationales. Mais en tout cas, pour revenir moi à Cliouche, moi je le trouve intéressant. Alors, ce qui lui a manqué cette saison, c'est évidemment la régularité. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en effet, c'est je sais pas si on peut appeler ça un changement de mentalité, mais je l'ai trouvé très généreux dans les efforts. C'était pas forcément le cas l'année dernière. Tu l'as dit peut-être aussi avec la bonne mentalité, c'est-à-dire qu'il a pas boudé. Alors, est-ce que c'est depuis l'arrivée de Poco? Je sais pas, mais je pense que c'est vraiment ce qui lui manquait. On en a parlé d'un point de vue athlétique aussi, où c'est vrai qu'il a l'air quand même assez frêle. C'est un joueur qui a certes 24 ans, mais qui est quand même assez grand. En règle générale, les joueurs techniques sont toujours assez bas avec le ballon. Ils ont un point d'ancrage assez bas. Là, c'est pas forcément le cas avec Marnies. Moi, j'aime beaucoup le joueur, honnêtement. Alors, est-ce qu'il va pouvoir aller au-dessus? Ça, je sais pas. Parce qu'encore une fois, je pense que malgré tout, athlétiquement, il lui manque peut-être encore quelque chose. Mais dans la mentalité, j'ai vraiment trouvé une différence entre l'année dernière et cette année. Maintenant, bravo à lui. On va voir ce que ça va donner.
C'était quoi ta question, Maxime?
La question, c'est-à-dire.
C'est un commentaire. Moi, j'ai une question à poser. Ouais.
C'était une question.
T'as des révélateurs, c'est les matchs de Champions League. Ouais. Sur les matchs de
il est devenu leader cette année.
Présent,
je trouve.
Et c'était très dur de le bouger.
Alors,
et contre les Anglais.
Bien, on fait une pause. Tu parles de la Ligue des Champions.
Oui, on fait une pause. Et dans un instant, tu poses ta question. Ouais, okay. C'est comme ça. Vous êtes trois, et puis on a un invité, donc il faut partager les questions. Dans un instant, tu seras prioritaire, Daniel. Reste avec nous, l'after, 20h, 22h46, RMC, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Maxime Chano, Florent Gautreau est là, Daniel Riolo aussi, et notre invité, Damien Perrinel, désormais libre. Il a quitté l'AS Monaco. C'était pas en prison non plus, hein, surtout pas à Monaco. D'ailleurs, c'est intéressant. Souvent, Daniel, t'as mis en mauvaise posture pendant des années, en disant dans l'after, mais faut promouvoir Damien sur le banc numéro 1, faut l'essayer. Bon, t'as pas joué les tours, ça?
Alors, on va rétablir tout de suite les choses. En 6 ans, ce qui est d'ailleurs c'est vachement respectable de votre part, c'est que j'ai pas eu un appel.
Ah bon?
Pour avoir une source.
Ah bon, on était mauvais parce qu'on aurait dû le faire.
Non, on voulait pas profiter de notre amitié.
Non, mais ça fait.
C'est bon, vrai que Damien, moi je voulais respecter ça. Ouais. Vas-y,
question.
Daniel.
Et je veux une réponse concrète. Alors là, il faut vraiment que tu nous expliques ce truc-là. Lille, comme Lyon, comme Monaco, au moment où la Coupe d'Europe, ça s'est terminé, les résultats en championnat se sont améliorés. Quel est le mystère qui fait qu'on n'arrive pas à motiver des mecs pour être bons le week-end et la semaine? À pouvoir mettre la même intensité, à le même niveau de performance, le même niveau de concentration. Des gens qui ont l'air de choisir leur match. Ça a coûté énormément à Monaco cette année.
Mais ça a coûté, comme tu l'as dit, à Lille,
alors,
à Marseille,
pourquoi ça
à Lyon.
Comment vous gérez la semaine? Vous leur dites quoi? Il faut être concentré les deux fois par semaine? Pourquoi on n'arrive pas?
C'est simple, c'est que c'est une machine à laver, c'est rentant. C'est-à-dire que quand tu fais ton match de Ligue des Champions, déjà, bah, généralement, tu donnes encore plus parce que le niveau est plus élevé, donc tu donnes encore plus physiquement, mentalement, ça demande une débauche. Tu rentres le soir, tu rentres chez toi, il est 4h30 du matin. Le lendemain, tu viens à l'entraînement, tu fais juste un décrassage et t'enchaînes déjà mentalement sur le prochain match. Et peut-être que tu voyages aussi. Et c'est pas facile. Et c'est là où, alors tu vas me dire,
les grands clubs
y arrivent.
Comment font les autres clubs?
Mais tu fais. Et encore, cette année, on n'a pas été si mauvais que ça sur les matchs après un match de Ligue des Champions. On a gagné beaucoup de matchs. On avait l'avantage aussi, c'était de recevoir le match généralement après la Ligue des Champions. Et tout ça, ça t'aide. Mais après, bien sûr, c'est une exigence, c'est une intensité, une endurance mentale qu'il faut réussir à trouver.
Mais il faut les remotiver, les gars, quand ils ont fait un match contre une équipe un peu vedette. Mais en Europe,
le Real Madrid, par exemple, cette saison.
Et tu te retrouves à jouer le samedi, j'en sais rien, à Lorient, je ne sais où. Les mecs n'arrivent pas à comprendre que c'est important. Leur motivation, forcément, elle part à côté. Comme moi, quand en tournoi, un jour, je joue un 15-2, le lendemain, un 15-5, j'ai pas la même motivation.
Ah, non, je ne pense pas. C'est une histoire de motivation, si.
Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit une histoire de motivation. Et encore une fois, je te dis, là, cette saison, même la saison dernière, je pense qu'on a vraiment performé après.
Oui, non, mais ça, d'accord, mais il n'empêche que quand Monaco, okay, la Coupe d'Europe s'est arrêtée, les résultats sont améliorés.
Moi, je pense que j'y verrais peut-être un autre facteur. C'est que tu regardes, on a fait des gros matchs cette année. On va jouer Marseille, on gagne contre Marseille. Je crois que le match d'avant, on gagne contre Lyon. Et derrière, on s'écroule contre le PFC.
Ah ouais, vous en prenez
contre 3 buts en 20 minutes du contre derrière. Toulouse. Contre Auxerre, qui étaient supposément des matchs qui étaient accessibles et qui étaient censés.
Et ça, c'est explicable. Et ça s'explique ou ça s'explique pas? Parce que nous, on a eu 1000 coachs cette année qu'on dit on comprend pas.
Parce que c'est.
On en a eu plein. De Zerbi disait on comprend pas.
Parce que pour faire.
Genesio, il a fait la gueule. Tout le monde, les mecs, on comprend pas. Donc si vous comprenez pas, donc on arrête, on comprend plus rien.
On veut faire l'avocat du diable. Alors c'est vrai qu'on est très critique avec l'AS Monaco. C'est vrai que cette 7e place, on attendait mieux. Mais s'il n'y a pas cette série de matchs, tu l'as dit, contre l'AG Auxerre, contre le Paris FC, contre Toulouse et même contre Lille, finalement, vous terminez pas mal et vous êtes pas loin de la 3e place. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez paradoxal. À l'inverse des autres équipes où Lille, Lyon, à chaque fois qu'ils ont été éliminés, c'est vrai qu'ils ont retrouvé un peu de fraîcheur. Vous, ça a été complètement l'inverse. Je pense que c'est une histoire de préparateur physique parce qu'on sait qu'il y a eu ce problème aussi par rapport aux blessures.
Non, c'est un contexte. On va rendre hommage au célèbre philosophe qui est décédé, Edgar Morin.
Tout à fait.
C'est la.
Ce week-end.
C'est la pensée complexe. Ce serait trop facile d'isoler un facteur sur des contre-performances. Je pense que c'est un ensemble en réalité.
Vous avez été en contre-courant en fait des autres.
Ouais, c'est un ensemble. T'as peut-être ce facteur mental. Au bout d'un moment, t'as peut-être aussi un facteur athlétique. T'as eu peut-être un petit morceau de facteur sur les blessures. Et l'un dans l'autre, peut-être que t'as des joueurs qui ont dû trop jouer. Encore une fois, parce que t'avais des blessés. Peut-être que toi. Il y a pas que
explication en réalité. Mais ça, je pense que c'est quand même la réalité de tous les clubs aujourd'hui en Ligue 1. Paul Pogba, pour terminer avec toi, Damien, tu l'as vu débarquer à Monaco, tu l'as suivi son immense défi qui s'est lancé, il a raté son défi. Voilà. C'est raté. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je crois qu'on peut pas dire le contraire. Pas dire le contraire. Est-ce que tu crois toujours que Paul Pogba peut retrouver un semblant de haut niveau? On l'a vu sur les terrains, c'est très lourd, compliqué pour lui, ça fait mal aux yeux, mal au cœur.
Là encore, on va reprendre le contexte à l'époque où il signe à Monaco. Paul Pogba.
Non mais ça on le connaît d'ailleurs.
C'est important de le dire.
Oui mais on le sait Damien.
Et il joue pas pendant 2 ans et demi et derrière, ce qui va, je pense, l'aider maintenant, c'est qu'il trouve une régularité aussi bien dans l'entraînement que dans les matchs.
Mais Damien, vous y aviez tous cru. Thiago Scuro, il nous a fait la scène de je chiale dans le bureau et tout.
Il a dit c'est un pari.
Oui, bah donc voilà, c'est raté.
C'est un pari.
Et aujourd'hui, non, mais personne n'est responsable. Vous avez fait le pari, c'est perdu.
Le pari est perdu. Le pari est perdu. Non, parce que le pari, en réalité, il est en cours. Il est sur 2 saisons. Alors, et on va voir ce qui va se passer. Sur la fin de saison, je peux vous dire qu'à l'entraînement, ça commençait à ressembler.
Mais
si vous attendez à voir le Paul Pogba de 2018,
ça, on sait. C'est même pas ce qu'on attend, en fait.
Voilà.
Les Rolling Stones en tournée à 75 ans, on attend quoi?
Non, Paul, moi, je vais te dire ça.
C'est le retour de Céline Dion.
Paul, déjà, est obligé aussi, ça fait partie du personnel humainement. Top. Quelqu'un d'exceptionnel.
Non mais ça oui, on l'adore, il est fantastique.
Grand professionnel, on est avec aujourd'hui lui. C'est admiratif de voir l'investissement qu'il met pour revenir justement au niveau.
Ça c'est déjà, c'est bon à
savoir. Il y croit.
D'accord, très professionnel.
Et le boulot quand je dis au niveau, c'est un niveau Ligue 1 professionnel, avoir un impact sur une équipe de Ligue 1, il y croit. Et le rôle de tout l'entourage de l'AS Monaco, c'est d'aller au bout de ce rêve et de tout faire pour
qu'il y arrive. Ils vont le garder encore.
Ah donc il continue alors. L'idée c'est de continuer.
C'est ce que j'ai compris, c'est qu'il continue un an.
Ok. Non, moi, donc Philippe Luch, il va le garder et il va essayer de le faire jouer.
Philippe Luch.
Non, moi, ce qui m'a gêné, c'est quand il a joué en Ligue 1, vraiment son dernier match.
C'est sûr qu'on dise comme
sur
ça,
les appuis, sur les, il y a des scènes qui m'ont fait un peu de la peine. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y a du travail, mais après déjà tant de mois passés à travailler, donc à faire tous ces efforts-là, ce qui m'a gêné, c'est pas de pas retrouver le Pogba de 2018. J'ai vu des choses dans les appuis, dans les contre-pieds, je me suis dit, il y a encore, ou alors il y a encore beaucoup de boulot. ou alors de lui-même, mais je sais pas s'il a pas un gros doute sur le fait de pouvoir rejouer au plus haut niveau, quoi.
Laissez encore une fois, il va avoir une prépa complète. Il va avoir des entraînements qui vont s'enchaîner, et puis ça va revenir petit à petit, ouais.
Mais la réalité, c'est que le football, il a évolué. Est-ce que Paul Pogba est en mesure maintenant de pouvoir tenir le rythme? Moi, tu parlais d'un physique. Moi, quand je vois Paul Pogba, ouais, le football, il a changé. Quand je vois Paul Pogba arriver, alors il y a une histoire, en effet, il a pas joué pendant 4 ans avec ses blessures, ses suspensions. Mais quand tu le vois physiquement, quand tu vois les milieux de terrain actuellement en Ligue 1, et tu l'as dit, Flo, il peut plus courir. Ça a été un super joueur, on l'adore. Il a été exceptionnel. Paul Pogba, il n'y a aucune chance qu'il puisse revenir en Ligue 1.
Damien, merci d'être venu partager ton expérience monégasque avec nous. Le BEPF, tu valides dans un mois.
Exactement.
Sur le marché, il y a des touches pour un club Ligue 2, Ligue 1, quelque chose qui se passe là?
Première. Il y a l'eau qui commence
à frémir un petit peu. Et bien là, on t'appellera en revanche. Tu prends un club de Ligue 2 ou Ligue 1 pour avoir des infos. Merci Damien Périnet.
Merci Damien.
Dans un instant, on va recevoir un ancien arbitre, un figure de l'arbitrage en France. Gilles Vessière sera avec nous pour parler de son expérience. L'after continue avec Flo, avec Daniel et Maxime sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
C'est vraiment un casse-pipe chinois.
Vu qu'on n'est pas non plus pressé, ça peut bouger assez vite.
Les mêmes choses. Vous pouvez même traduire, parce que je parle pas toutes les langues en étranger. Donc.
J'essaie d'apporter des idées. Voilà. C'est ça qui m'importe. Et c'est pour ça que je suis là, à l'after foot, qui est la messe du football.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
RMC l'After Foot, merci d'être avec nous. 23h03, Florent Gautreau est là, Maxime Chano aussi, Daniel Riolo également. Tiens, quelques matchs, les amis, de prépa pour le mondial. On est l'air de rien à 9 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. On sera sur place, vous le savez. Daniel sera là, Flo sera là, Max sera là, Wesa Cherchour, Kevin Diaz aussi, Gilbert bien sûr, pour vous accompagner très tard dans la nuit, tout au long de cette Coupe du Monde qui démarre dans 8 jours désormais. Tiens, la Belgique s'est imposée 2-0 en Croatie. Tillmans, Lukaku sont les buteurs. On a également le Maroc qui a battu Madagascar 4-0 avec la première comme titulaire, en tant que titulaire, d'Ayoub Bouadi, le Lillois, avec un doublé de Saïbari ce soir pour les Lions de l'Atlas. Un partout entre le Pays de Galles et le Ghana, et puis un partout entre la Géorgie et la Roumanie. Voilà pour les matchs du soir. Le tennis Roland-Garros, Daniel se prend la tête.
C'est franchement suspense, c'est terrible,
énorme.
Match, elle est démente.
Mensik Fonseca, Eric Salio.
Fabuleux ce match avec trois balles de match sauvées par Joao Fonseca, mais la quatrième arrive dans quelques instants parce que Mensik fait des miracles. Il frappe très fort, il a aussi une main extraordinaire à l'image de cette contre-amortie qui a pris de vitesse.
Mais j'arrive pas à le voir fort, ce Mensik, Eric.
Ah bah, viens ici, tu verras la diff. Oh, volée amorti magnifique de Fonseca sur la numéro 4. Alors là, passez-moi l'expression, c'est couillu parce que service volé, volé amorti de coup droit.
Extraordinaire.
4 de sauvés. 4 de sauvés, 2-7-0, 6-4-6-3, on est à 6-5, 40 ans, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Et si jamais Fonseca prend ce jeu, il prend le tie-break derrière, et on va au bout de la vie
pour le 7. Hein, attention, il faut le dire. Hein.
Ouais, mais il s'est fait reprendre. Hein, parce que l'autre tourne incroyablement bien. Est-ce qu'il y aura une cinquième occasion?
Mais j'arrive pas à le voir bon, ce Mensik, qui fait quoi de bien?
C'est un bloc, c'est un monolithe.
Je vois pas ce qu'il fait de bien.
Tradition tchèque, quoi.
C'est balle de match à venir. Balle de match. La cinquième à venir.
Oh là 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 là. Il va finir
par la faute en revers.
Direct, revers.
Bon, Eric, tu nous préviens, c'est terminé.
Non, attends, c'est la bonne là.
Vas-y, approche-toi.
Enfin, Nico, tu connais le tennis quand même.
Non, mais c'est
Mensik,
Fonseca.
On a un arbitre avec nous là.
Si tu le regardes, hier, tu Nico, c'est pas jaune, joli, joli ce que t'as fait hier. Hein.
Pour quel match?
Ouais, tu sais très bien.
1h15, Zabalenka contre 1h15, Osaka.
Bravo la
Allez, la numéro 5. Allez, service.
On voit que tu pèses pas trop près d'Amélie. Hein.
Vas-y.
Ouais, il appuie fort avec son coup droit. Fonseca est sauvé.
Mais non,
voilà pourquoi. De sauver.
Ouais. C'est quoi, Eric? Tu nous tiens au courant? C'est encore une fin de match.
Sûr, hein, demain, la fin de match, elle est folle. Bon, s'il s'en sort, c'est un délire.
Ok, on l'a compris. Notre invité qu'on accueille, après Daniel Périnel, un grand visage de l'arbitrage français.
Ah oui.
Il s'arrêtait juste avant le début de l'after. Il a eu la chance en 2005. Ça,
bah non, pourquoi il a eu la chance?
On
aurait pu dire que c'était le numéro 1 de l'arbitrage, comme on a fait avec Clément Turpin après.
On défend les
enfin un classement des numéros 1.
Et surtout, c'est vrai, il va falloir lui dire ça en ouverture. Bon, d'abord, bonsoir, monsieur Vessière.
Bonsoir, messieurs.
On s'est toujours revendiqué comme l'émission qui a défendu les arbitres. Tout le temps. On ne supportait pas les dirigeants qui passaient leur temps à expliquer leur défaite par le biais de l'arbitrage.
Je vous l'accorde et vous aviez raison.
Merci. Merci, monsieur.
On l'a redit hier à Olivier Létang, d'ailleurs.
J'ai l'impression que vous êtes. Là, je vois, vous sortez un livre, hein, qui s'appelle Monsieur l'Arbitre, autobiographie, Gilles Vessière, édition Vaillant. Là, je vous vois en vrai. Vous êtes plus fit que quand vous étiez arbitre, j'ai l'impression.
Ah, et, écoutez,
comment c'est possible?
C'est pas impossible. Après, j'avais de la mauvaise habitude d'arbitrer avec beaucoup de couches dessous.
Ah, d'accord.
Je mettais beaucoup de t-shirts.
C'est pas le vice, c'est les épaisseurs.
Il y avait de l'épaisseur.
Bravo, Nico. Bravo, bel accueil.
Il y avait de l'épaisseur. Donc, vous voyez, je fais un retour, moi.
Si j'y vais, parce qu'on sait que j'y vais, c'est un gros caractère parmi les arbitres également. On va en parler, personnalité très affirmée. On parlera de Luis Fernandez aussi, inévitablement.
Le fameux parti chambreur sur le terrain.
Oui, j'étais chambreur.
Est-ce que des joueurs vont reprocher d'être chambreur?
Non, certains joueurs. Parce que je préfère chambrer que mettre un carton. Je suis l'arbitre qui a mis le moins de cartons en matière de contestation. Parce que je partais du principe que mettre un carton jaune à un joueur, tu punissais toute l'équipe pour contestation. Après, il y a un tirage à maillot ou quoi que ce soit, il se retrouvait à 10. Et à partir de là, ça déséquilibrait complètement le match.
Ça veut dire quoi, chambrer?
Bah, ça veut dire que quand il venait me chercher parce que j'avais loupé un coup franc ou un corner, je lui disais que tout à l'heure il avait loupé le cadre alors qu'il était à 5 mètres du but. Et que moi j'étais pas venu lui taper sur l'épaule pour dire il faudrait peut-être me faire plat du pied ou avancer ou quoi que ce soit. Et je préférais.
Tu l'aurais bien pris, Max, sur le terrain, arbitre.
Ah oui,
ça.
Max, oui, bah, tu me connais. Je suis un ancien joueur, monsieur l'arbitre.
Ouais. Peut-être que vous avez arbitré le match.
Maintenant, 95. Ah, 2005, pardon.
Je sors en 2005.
Ouais, moi je commence en 2006.
Alors,
bien.
Ouais.
Attends, alors, juste une petite question. Je mets les pieds dans le plat parce que vous parliez que vous étiez chambreur.
N'hésitez pas.
Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé d'insulter des joueurs?
Jamais.
Ah, non.
Jamais.
Non. Ah, bah, tu serais très étonné. Tu serais très, très étonné. J'ai joué les deux dernières années en Ligue 2. Et j'ai eu quelques. Alors, on peut parler des arbitres étrangers.
Vraiment la grosse insulte.
Ah, on y va sur les maires et compagnie. Ouais,
mais non.
Je peux te jurer.
Ah, bah, vas-y, donne-moi un nom. Donne-moi un nom.
Allez, sors. Non. Ils savent très bien de qui.
Sors les Webos sur la table. Qui t'a dit ça?
Laisse-moi regarder sur Google. Je vais trouver au faciès. Écoute-moi. Non. Monsieur l'arbitre, je vous assure. Et c'est arrivé plus d'une fois. Alors, ça m'arrive de taquiner les arbitres. Et en réponse, j'ai eu le droit des noms d'oiseaux qui étaient quand même très moyens pour ma mère.
Des surpris, Gilles Vessière, ou pas? Ça, vous savez que certains collègues, confrères le.
Non, ça me surprend. Ça me surprend. Ah bon. Après, il peut tomber sur des arbitres en bout de ligne, en deuxième division. Et donc, les garçons, ils ont peut-être au fond d'eux-mêmes un peu de rancœur et ils se lâchent.
Oui.
Je pense que c'est plutôt ce style d'arbitre que vous avez rencontré parce qu'un jeune prometteur, il se mettrait pas dedans.
Bon, je rappelle votre carrière quand même pour les plus jeunes.
Oui, rappelons, parce que c'était un arbitre important à son époque.
Majeur de notre Ligue 1, bien sûr. 15 années au plus haut niveau professionnel, 90-2005.
Exact. 15 années, c'est le max qu'on peut faire?
J'ai 45 ans.
Non, c'était la limite d'âge, 45 ans.
Oui, non, mais c'était le max. Vous avez fait le max.
Ah oui, j'ai fait le max.
Au niveau.
J'arrive en 90.
Vous pouvez démarrer plus tôt dans l'absolu. On peut démarrer à 28 ans.
Oui, mais comme je l'explique dans le livre, moi, j'ai perdu du temps parce que j'étais un peu hors norme, un peu trop impétueux. Et j'explique les situations compliquées que j'ai rencontrées dans ma carrière et sur lesquelles, je m'en suis sorti avec des fois de la chance, des fois le destin. Mais c'était pas simple de sortir quand on arrive trop jeune. Moi, je suis arrivé à 14 ans. À 14 ans, à l'époque, dans les années 70, on jouait au ballon. Il n'y avait pas d'arbitre. Oui, ça n'existait pas, des jeunes arbitres.
Vous observez un match d'amis. On vous dit, alors c'est chaud sur le terrain. On vous dit, Gilles, vous êtes jeune, viens arbitrer. Tu vas comprendre ce que c'est. Tu parles trop sur le terrain.
Non, c'est pire que ça. C'est que mon côté chambreur était déjà là, puisque tous les samedis avec mon voisin et ami de club, on descendait jouer sur le terrain annexe au stade du Ré qui s'appelait le stade Gorbella. Et à partir de là, on jouait. Et puis j'ai vu passer mon entraîneur des minimes de l'OGC Nice où je jouais, qui jouait dans une équipe corporative, en l'occurrence le Crédit Agricole, sur le grand terrain de Gorbella. Et j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, il est tout le temps en train de nous chauffer, on va aller sur la butte et quand il va se louper, nous aussi on va lui dire ce qu'on pense de son pied droit et de son pied gauche. Donc on est allé là-dessus et on s'est assis sur la butte. Et quand on s'est retrouvé sur la butte, au bout de 5 minutes, il y a eu bagarre générale.
Oui.
Ils se sont mis sur la gueule. Alors, moi j'ai dit à Luc, j'ai dit viens, on se casse, ça sent pas bon, on n'a rien fait.
L'un vous rattrape.
Et donc on part et j'ai dit mais pourquoi ils se battent? Il me dit mais t'as pas vu, c'est le libéro de l'équipe adverse qui a le sifflet, il siffle tout pour eux. Donc les autres ils se sont mis dessus.
Mais si on les a tous seuls les matchs au niveau amateur où c'est le père ou l'oncle de machin qui fait la touche,
on entend
la
marque,
exact, chef de garde, tu fais que lever.
Quel t-shirt.
Voilà, la vocation commence comme ça. Alors premier match, ça c'est intéressant, à la Mosson, chez Loulou Nicolin. On est en 90, Montpellier Toulouse, d'un côté Valderrama, de l'autre Beto Marsico.
Ouais.
Laurent Blanc à Montpellier.
Ouais.
Premier carton jaune de Gilles Vessière. Vous allez me dire si ce nom vous dit quelque chose, évidemment, moi ça je me rappelle, Jean-Manuel Tétis.
Bien sûr.
Ouais.
Alors, moi, Jean-Manuel, je vais te dire, j'allais en vacances à la Grande Motte et je le croisais souvent au casino de la Grande Motte.
Tu l'appelais Jean-Manuel, Jean-Marc.
Je connaissais. Ouais. Voilà,
Jean-Manuel Tétis.
T'as
le casino, toi. Vous expliquez
la Grande Motte.
Auprès de Laurent Blanc à l'époque, qui est capitaine. C'est Laurent Blanc. Vous allez vous justifier auprès de Laurent Blanc. C'est ça. On est en 90.
On est en 90. À l'époque, pour sortir un joueur, il faut un coup de hache. Il n'y a pas de carton rouge.
C'est vrai.
Il
faut s'en souvenir.
Il fallait un coup de hache pour qu'on sorte un joueur. On n'avait pas cette culture de la sévérité. C'était compliqué pour les attaquants. Hein. D'où le problème Van Basten qui va arriver. Et j'arbitre ce match-là. Donc c'est mon premier match. 48e minute. Donc j'ai 48 minutes de D1. Je donne un coup franc sur le côté gauche et carton jaune à Tétis. Et j'appelle Laurent Blanc. Je dis, s'il me refait le même, il sort. Et Laurent Blanc me dit, monsieur Vessière, vous arrivez en première division, il va falloir apprendre, rester là. J'ai dit, écoutez, Laurent Blanc, moi j'arrive, mais je veux rester. Mais lui, s'il continue, il sort. Le ballon, le coup franc est tiré, il rentre dans la surface de réparation, dégagé par Montpellier, je me déplace, et sur le côté gauche, un gros tacle assassin côté d'un gars de Montpellier, je me rapproche, mon numéro 4 Tétis, donc rouge. Et là, j'ai tout Montpellier qui vient sur moi, parce qu'à l'époque, quand tu mettais un rouge, il y avait la horde sauvage. Et là, je leur dis, les gars, vous débrouillez avec Laurent Blanc, j'ai tout expliqué avant. Et Blanc est arrivé devant, il a dit, foutez-lui la paix, j'aurais dû le dire à Tétis, il m'avait dit avant.
C'est beau, c'est mon premier match.
Belle preuve de pédagogie avant.
Non, mais ce qui est
prémuni avant de.
Ce qui est dur, c'est que dans les années où Gilles Vessière a arbitre, comme il le dit, il n'y a pas l'habitude encore d'être protéger les joueurs à ce point, au point d'aujourd'hui, il y a aussi des joueurs très très durs et très physiques derrière. Ouais. Non, il y a des chats, mais Jean-Manuel Tétis, c'était quelqu'un de dur. Ouais. On a parlé l'autre jour des gars là, Martigues, Pounevatchi, les histoires. Il y avait à chaque fois des défenseurs qui étaient là pour cartonner.
Vous pouvez parler, Gilles, puisque vous l'avez évoqué juste avant, là, le, je sais pas ce qu'on appelle ça, la jurisprudence, le cas Van Basten, qui a changé l'arbitrage.
Tout à fait. Le tacle par derrière, après que Van Basten ait été le cas le plus important, parce qu'il a eu X blessures, et ils ont été obligés de modifier sur la Coupe du Monde 94. Et on attaque 94-95, donc l'année 95, et là je me retrouve avec le match au sommet entre Nantes et le Paris Saint-Germain. On n'a pas encore eu de ce fameux carton rouge pour un tacle par derrière, ce premier carton rouge. Et malheureusement pour moi, puisque je suis de l'OGC Nice et celui que je vais expulser était un ancien OGC Nice, c'est sur Jeff Hendendorham, c'est Daniel Bravo qui tacle par derrière au Parc des Princes sur le match au sommet pour le titre. Et je mets le carton rouge directement. Et là-dessus, ça a fait une polémique d'un autre nom, parce que ils ne comprenaient pas qu'on pouvait d'ores et déjà sanctionner. C'était nouveau, mais c'était, je pense, le bon choix.
Et finalement, c'est rentré dans les mœurs maintenant, le tacle par derrière.
C'est effectivement une grande évolution de l'arbitrage.
Ça voudrait dire que peut-être ce qui est en ce moment un petit peu compliqué avec la VAR, peut-être que dans 10-15 ans, eh ben, au même titre que le tac par derrière, ça va rentrer dans les mœurs, et finalement,
on parlera d'ailleurs. Votre avis sur l'assistance vidéo, on en parlera aussi.
Il y a une adaptation importante, parce qu'en plus, JVC a connu le 92, la passe en retrait au gardien, etc. Il y a des changements de règles qui sont capitaux pour les arbitres. Ouais. Mais justement, moi, je vais faire un lien avec ce qu'on a vécu en finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'arbitrage de la finale. Moi, il y a un truc qui me paraît important, et j'étais à fond là-dessus, c'est le gain de temps, les problèmes de gain de temps. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de règles, et on va en voir des nouvelles d'ailleurs
dans la Coupe du Monde. On en parlera tout à l'heure.
Et j'ai trouvé, moi, plutôt bien ce qu'a fait l'arbitre, puisqu'on a vu qu'Arsenal était dans cette logique du gain de temps. On savait qu'en temps effectif, Arsenal avait le moins de temps effectif des équipes. Tout ça, les arbitres le savent aussi. Et ce qu'il a fait sur le corner de la fin de première période, finalement, en voyant que Saka voulait encore gagner du temps, en lui disant bah stop, dans ce cas-là, il n'y a plus de corner, tout le monde au vestiaire. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose dans le caractère, au moins, que vous auriez pu faire?
Non, moi, je suis pas. Je vous accorde crédit à vos propos, et c'est bien en 2026, mais je ne suis pas d'accord, comme beaucoup de choses. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'était un livre autobiographique, oui, dans les deux premières parties, mais après, je rentre un petit peu dans le dur, et j'ai le courage de dire ce qui n'a jamais été dit. Moi, je l'ai dit sur un très bel article, et je remercie Eric Galliano de ce matin, qui a eu le courage de bien l'écrire. Pour moi, aujourd'hui, ce livre, ce qui est important, c'est que j'ai eu envie, à un moment donné, j'ai entendu trop de conneries, et j'ai eu envie de donner un peu la main aux journalistes.
C'est-à-dire trop de conneries?
Ben, j'entends trop de conneries, parce que c'est le café du commerce quand vous allez. Non, mais partout, dans n'importe quel journal, dans n'importe quel
podcast. Sur quel thème, par exemple, un exemple.
Ils sont tous entraîneurs, ils sont tous arbitres, mais il y a aucun travail derrière. Alors je me suis dit, la corruption. Parlant de la corruption, oui, il y a eu corruption. Je le dis, j'explique comment certains matchs ont dérivé.
Dans le foot, en Ligue 1,
en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, j'explique dans les matchs comment des matchs ont dérivé.
Mais bah, expliquer parce que les gens qui nous écoutent là, ils sont tentés, ils iront acheter le livre, mais on a envie de savoir.
Vous allez répondre à Faro. Mais là, quand même, vous avez un petit peu chauffé sur la corruption. C'est important. Vous en parlez dans le bouquin.
Non, mais je voudrais revenir parce que sa question était très intéressante. Vous avez raison. Vous avez raison sur la forme, mais moi, je suis pas d'accord parce que on a tout dans les 17 lois du jeu. Et notamment, je le dis dès l'introduction de mon livre, on a ce fameux pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire, c'est à l'arbitre par rapport à ce qu'il sent, ce qu'il voit. Donc, s'il le fait à la mi-temps, je suis pas d'accord. C'est comme ce fameux carton jaune que tu mets au gardien à la 88e alors qu'il perd du temps depuis la 5e, la 6e ou la 7e parce qu'il mène
donc
un 0.
Il leur a dit trop tard.
Bien sûr, c'est là où je suis pas d'accord. C'est qu'à un moment donné, si tu veux soigner, commence par soigner d'entrée dans le premier quart d'heure, quitte à prendre les risques. Il faut avoir le courage. On a tout dans les lois du jeu et on le voit sur ce qui est en train d'arriver. Regardez,
Gilles Vessia, je vous coupe, désolé, balle de match à Roland Garros, Eric Salio.
Balle de match, un numéro 7 pour Mentic, qui tente une amortie foncée, il pourra pas y aller aussi, mais en deux temps, mais Mentic va le surprendre sur une contre-amortie. Magnifique victoire de Jakub Mentic, 6-4, 6-3, 7-6. Il est en demi-finale de Roland Garros où l'attend Sacha Zverev, ce sera vendredi. Ils se sont joués le 28 avril à Madrid, les deux. Ça avait fait 6-4, 6-7, 6-3 pour Zverev. Ça peut être un beau match.
On verra en tout cas.
Parce que là, le niveau de Mentic, waouh, chapeau.
Hein. Si Mentic gagne Roland Garros, moi, celle-là.
Je suis tellement déçu pour Joao.
Tout à fait. Il est jeune encore, 19 ans, Joao Fonseca. Bonne soirée à toi, Eric. Dans un instant,
tu as Corda Muster, tout ça, là. Les gros vainqueurs, les gros noms, et puis t'as un mec qui va.
La première de Bruguera, par exemple.
Il croyait encore Zverev quand même.
Ah, Zverev.
Qui est plus que jamais le grand favori, quand même. Qui déroule.
Et Berrettini.
Moi, je vois Mentic sortir Zverev.
Ah bon? On verra. Dans un instant, on est avec Gilles Vessière, arbitre de Ligue 1, de 2 euros également, je ne l'ai pas dit, une Coupe du Monde en 2002, Corée du Sud. On parlera corruption, vous en parlez dans votre livre également. Vous n'avez jamais été approché, mais vous avez quelques éléments à nous donner ce soir. Reste avec nous, la suite de l'After dans un instant sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Maxime Chano, Daniel Riolo, Florent Gautreau et notre invité Gilles Vessière, arbitre professionnel pendant 15 ans, 2 euros, une Coupe du Monde.
Moi, je suis amateur jusqu'à la fin de ma carrière. C'est ça que vous oubliez de dire et qui est très important.
Oui, il y a des...
J'ai un statut arbitre.
Oui, mais à l'époque, il y a des dédommagements qui sont importants quand même.
Fais mon premier match de première division, comme j'explique dans le livre. Je touche 90 euros. Non, à 90 euros, je peux chambrer.
En 90,
mais à la fin.
À la fin, je gagne 1500 euros par match.
C'est vrai. Je pensais que c'était plus.
Eh oui, 1500 euros par match. Je veux dire, le statut amateur, ce n'est pas une question. Je loue les arbitres qui ont obtenu un statut et qui ont pris l'ascenseur social. Mais le statut amateur nous a permis. Notre libre arbitre qui, comme je le dis dans le livre, aujourd'hui, si les arbitres sont des fois pas si performants, c'est parce qu'ils ont perdu leur libre arbitre.
Comment ça, ils ont perdu leur
libre arbitre? Ils ont perdu leur libre arbitre parce qu'on leur demande d'être des petits robots, on leur demande d'être uniformisés, on leur demande de pas parler, on demande de pas répondre.
La sanction, s'ils font pas si,
vous avez commencé.
Il faut qu'on s'arrête là-dessus deux minutes parce que ça, c'est intéressant, ça, le côté, les arbitres qui sont devenus des petits robots. Comment, expliquez-nous ça?
Moi, je trouve la robotisation de l'arbitrage. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, on leur demande d'arbitrer uniformément à Lorient, à Bordeaux, à Paris, à Marseille, alors qu'on peut pas arbitrer uniformément.
C'est-à-dire.
Pourtant, les gens disent tous ça qu'il faut que la décision du dimanche dans Lorient-Nice ce soit la même que Lorient-Rennes la semaine d'après.
Moi, Gilles Vessière, juste un point. J'aime beaucoup ça parce que il y a souvent des gens qui disent sur le même match la semaine dernière c'était la même faute. Or, ça n'est jamais la même faute.
Exactement.
D'accord. Je n'en peux plus.
Exactement. Moi, j'ai la chance de commenter les matchs et je peux vous dire que sur la même situation, week-end après week-end, c'est des décisions différentes.
Non, parce que c'est pas un problème ça.
Ce que je disais à Gilles Vessière, c'est, et ce que j'ai dit dans l'after toute l'année, ce que tu dis, la même situation, ça n'est jamais exactement la même.
Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je le répète, on n'arbitre pas j'ai cité un Bastia Bordeaux parce que c'était ma période, mais je peux citer pour les matchs que j'ai vus, on n'arbitre pas pareil aujourd'hui un Marseille-Lyon que ce qu'on va arbitrer un Lorient-Metz.
Et alors pourquoi? Ça veut dire quoi?
Parce que d'abord la qualité des joueurs en présence, l'importance du jeu et donc la pression. Moi, avant de rentrer chaque match, je mettais une échelle sur 10, quel niveau d'intensité je pouvais laisser monter le match à 6, à 7, à 5, à partir de quand je ne tolérais plus rien, que ça soit quand je faisais un Milan à Inter de Milan ou un Real Madrid Manchester.
C'est-à-dire vous tolérez plus rien, c'est-à-dire quoi? C'est la faute, le quoi? C'est quoi?
Oui, de plus tolérer le fait que ce que j'ai donné comme possibilité d'investissement dans le physique, dans le truc, à ce moment-là, je passais au carton. systématiquement, je basculais au carton. Mais les joueurs venaient avec moi, parce que vous laissez les micros fautes, parce que vous les laissez jouer, parce que par la voix, vous les accompagnez. Jouez les gars, pas de faute.
Oui, mais pourquoi, si le niveau est élevé, on arbitre pas pareil? Parce que ceux, par exemple, Lorient-Nice, un match, hein, et les mecs peuvent dire, bah, pourquoi nous, on doit être arbitré différemment? C'est quoi, parce qu'on est, merdeux?
Je m'exprime peut-être pas comme vous le souhaitez, mais mon impact n'est pas le même. Le match n'est pas le même. La vitesse n'est pas la même. L'ambiance n'est pas la même. Et tous ces ingrédients font que ce n'est pas le même match. En première division.
Ça, c'est le côté humain de l'arbitre que vous soulignez. Moi, j'adore ça, parce que nous, on prône cet arbitrage humain et pas robotisé.
C'est exactement cela. On a un côté humain où l'emprise n'est pas la même.
Chaque match a une personnalité, en fait. Il faut s'adapter à la personnalité du match.
Et c'est ça qui est important. Et cet arbitrage moderne que nous met aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à s'adapter à des matchs différents. On leur demande d'arbitrer pareil PSG-OM. Moi, vous savez, je me suis beaucoup moqué, entre guillemets, en stage au gars. Je dis, oh, vous, parce que je pouvais pas arbitrer l'OM jusqu'aux trois dernières saisons.
Parce que vous faisiez partie de la Ligue Méditerranée.
Parce que vous faisiez partie de la Ligue Méditerranée. Je leur disais, oh, vous allez pas m'emmerder pour un PSG-OM. Excusez-moi, j'ai été cru là, mais je leur disais aux gars en stage, je leur dis, vous allez pas m'emmerder pour un PSG-OM. Moi, j'ai fait un Galatasaray Juventus et je l'ai motivé et tout. Mais tu verras le jour, si un jour tu le fais, tu verras que c'est pas si simple. Et j'ai donc fait, à la fin de carrière, bon, j'ai commencé à faire Marseille, j'ai fait ce PSG-OM 2024 avec le retour de Fiorez au Parc des Princes. Et le carton
2004. C'est vous qui le faites, celui-là?
C'est moi qui
le but de Paoletta.
Extraordinaire.
Bah ouais. Frappe de Cissé pleine lucarne, magnifique. Et 7 novembre 2004.
Je peux vous garantir quand vous
mettez un rouge à Sylvain Armand.
Ouais, à la 19e. Spectacle par derrière sur Fiorez. Et donc, quand je suis rentré dans les couloirs, quand j'ai vu les gars, quand j'ai vu tout ça, j'avais pourtant de la bouteille. J'étais un an de la quille. Je peux vous garantir que.
À l'aller, avant le match, vous voulez dire?
Avant le match.
Le couloir avant le match. Vous avez senti la tension?
Ah ouais, j'ai senti la tension. C'était pas le même match.
Et comment vous l'avez senti?
C'est un des plus beaux PSG-OM. C'est un des plus beaux avec les banderoles sur DU et Fiorez.
Allez-y, GVCR. Comment vous le sentez dans le couloir avant l'entrée, là?
La tête des gars. Même les dirigeants, tout le monde est fermé. Les joueurs sont fermés. Tout le monde. Le gardien de la porte, tout le monde. On sent une atmosphère, une chape. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et quand vous rentrez dans ce match-là, vous rentrez pas dans le même match. Parce que on l'oublie souvent. Et moi, je veux le dire ici parce que j'ai pas toujours été gâté avec le Paris Saint-Germain dans ma carrière, ça m'a pas toujours réussi à une certaine période notamment. Parc des Princes, c'est quelque chose quand même, hein. Le public du Parc des Princes, l'ambiance, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. On nous dit, c'est bien Lens, c'est bien Saint-Étienne, c'est bien Marseille.
C'est du coup le Vélodrome, vous avez jamais arbitré?
Oui, j'ai arbitré.
Si,
sur les deux dernières années, j'étais numéro un français et qu'il y avait des gros matchs, ils avaient décidé de faire tomber cette barrière-là pour que je puisse arbitrer l'OM.
Vous avez mis à l'abri d'un certain Bernard Tapie, hein. Dans le livre, vous le racontez quand même. Dans les premières années, au moins, dans les années 90, comme vous faites partie de la Ligue Méditerranée, vous pouvez pas arbitrer les matchs de Marseille.
Ouais.
C'est intéressant
d'ailleurs. Ça évitait des coups de pression, alors?
J'en ai
pris. Il vous en a mis un, Bernard Tapie, Istres-Marseille, je crois.
En Coupe de France, tout à fait.
Fin de match, c'était chaud, avez mis un carton à Deschamps.
C'est ça.
Il vient vous voir après le match, il vous dit, tu le retires, le carton. Ouais. Tu le retires tout de suite du rapport.
Tout à fait.
Alors que tout le monde a vu le carton jaune.
Et moi, je lui ai montré où était la porte, un peu violemment, et j'ai fait un rapport qui est jamais arrivé à la fin.
C'est ça. Et le problème, c'est que le délégué du match, il vous a contredit dans sa version, quoi.
Ah bah, il me dit, tu as raison, on va y aller, je marche comme toi. Et quand je me suis retrouvé en commission, le délégué dit, ah, mais non, il n'est pas rentré dans le vestiaire.
Mais vous avez parlé avec les collègues de l'époque qui subissaient la pression de l'OM de Tapie, parce que bon, on les connaît, les histoires,
bien
maintenant.
Bien sûr.
Alors, puisqu'on parle de
ça. Et on pouvait rien faire.
Ah, il était vraiment, vraiment. Allez, on va le dire comme on doit le dire. Il était vraiment protégé, quoi. C'est clair.
Ah oui, ça, il était protégé. Oui, ça, il était protégé. Ouais, quand le président de la République, en direct, un 14 juillet, dit que vous êtes formidable, oui, on sait qu'il était protégé.
Jean-Michel Aulas, vous êtes laudateur. Vous adorez Jean-Michel Aulas. Vous en parlez dans votre bouquin. Bon, comme on est tous d'accord, c'est un des plus grands présidents de club français, bien sûr. Mais sa courtoisie, le rapport que vous avez avec lui humainement, c'était le top.
Vous avez un bon rapport.
Pourtant, lui, c'est un homme qui venait dans les vestiaires après les matchs, hein, mettre la pression sur les arbitres. Donc,
Ouais, mais je parle de beaucoup de choses. Je parle de Jean-Michel Aulas parce que pour moi, j'ai vu Aulas progresser. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même, à l'époque où j'arbitre, c'est la 7e fortune de France. Il a une réussite extraordinaire. Mm-hmm. Il mérite un grand respect. Il prend Lyon en D2 à la rue. Et trois ans après, et non seulement il est fait monter, mais quatre ans après, il est en Coupe d'Europe. Moi, j'ai toujours observé la performance avec un centre de formation remarquable, avec une volonté des jeunes joueurs à aller à Lyon. Donc, j'ai regardé ça. Mais moi, j'ai
C'est-à-dire que l'arbitre sait ce qui se passe dans le monde du foot, il peut aimer ou pas aimer des gens, mine de rien. Mais on a presque l'impression que l'arbitre, normalement, il peut pas avoir ce genre de sentiment.
Mais, c'est la force que nous avions en étant amateurs. en étant amateur, je vous ai dit tout à l'heure, on avait le droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, de pouvoir dire, de pouvoir rentrer avec un quart d'heure de retard parce qu'on estimait qu'on n'était pas content. On pouvait donc manifester, entre guillemets, une petite grève. On avait toutes les possibilités avec ce statut-là. On avait le statut, effectivement, d'être des parties prenantes de notre passion, parce que nous, on défendait notre passion. Dès l'instant où le beefsteak n'était pas aussi gros qu'aujourd'hui, on pouvait d'abord, on défendait la passion et surtout l'éthique et l'éthique.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure qui correspond à ça, on a des arbitres dont on se dit parfois, ouais, il aurait pu siffler, mais là, en fait, ça va lui être reproché dans le rapport, donc il va perdre des points, donc il se dit qu'il faut pas le faire, donc ils sont dans une logique très bureaucratique, quoi.
Bah, je le dis dans le livre, et je suis très sévère, mais de toute manière, il faut bien que quelqu'un le dise, et il fallait que ça soit moi, parce que personne ne le dira, mais la notation aujourd'hui, elle est chaotique, et les pauvres arbitres, ils sont dans une situation. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, nous avons 9 matchs de première division, et seuls 4 contrôleurs se déplaceront. Les 5 autres seront contrôlés par vidéo.
Ouais, donc c'est pas
comment vous pouvez contrôler un joueur?
Bien sûr, par vidéo, c'est avoir une vue périphérique du match.
L'ambiance, c'est tout. Et alors, ce garçon finit un match où il espère avoir fait un bon match, il a peut-être des bons retours des clubs, peut-être des bons retours des joueurs, une bonne ambiance, tout s'est bien passé. J'explique par exemple mon Milan AC Inter de Milan en demi-finale de Coupe d'Europe où j'ai vécu cela. Et 48 heures après, le responsable de l'arbitrage a regardé la vidéo, il dit, moi, il y a la 17e ou la 28e ou la 32e. Oui. Et le gars, d'un satisfait site, il se retrouve avec un coup de mal-être et de pression.
Et d'ailleurs, on l'a vu dans le classement, là, des arbitres de Ligue 1, il y a des trucs très surprenants. Enfin, dans ceux qui descendent, notamment, on a été très surpris.
En tout cas, vous pourrez pas m'enlever l'idée qu'il y a certains arbitres quand même qui ont une certaine sympathie avec certains clubs. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Ajaccio. Et c'est vrai que certains arbitres sont. Je vais regarder encore sur le.
Ah, mais comment ça fait des recherches, Max?
Intéressant d'ailleurs, vous évoquez ça. Sérieusement, c'est important, c'est que tu as certains arbitres qui sont un peu mieux reçus que d'autres. Alors peut-être que ce n'était pas votre cas,
vous allez plus loin, Gilles Vessière, vous racontez la partie émotionnelle du cerveau, bien sûr, pour justifier parfois les décisions qui peuvent être subjectives. Pendant un match, vous dites, durant toute ma carrière, à chaque fois que j'ai douté sur un coup franc, un corner ou une action disputée, mon bras partait presque automatiquement contre l'équipe indisciplinée.
Ouais.
Ça veut dire rien doute. Allez, eux, trop de fautes, trop de nervosité, je les sanctionne.
Vous savez, ce livre, quand j'ai pris la décision de le faire, d'abord, ça partait de toutes les questions qu'on me posait au café du coin, en buvant un coup avec les collègues ou quoi que ce soit. Et on me disait toujours, ouais, mais il y a des équipes que tu préfères, il y a des équipes qui sont favorites, il y a des équipes que tu avantages. Et ça, je l'ai entendu souvent. Et je me suis dit, ils ont pas tort de me dire ça, parce que c'est vrai que souvent, quand je réanalysais, parce que j'ai quand même beaucoup bossé sur ce bouquin, et je me dis, mais mince, il y a quelque chose qui se passe. Et là, je suis allé chercher sur le cerveau affectif, le troisième cerveau, le cerveau affectif, qui explique que déjà, 60% de nos décisions, 60% de ce que nous prenons au quotidien, c'est positif, c'est très très positif.
C'est lié à l'affect.
C'est lié à l'affect et on avance là-dedans. Et je me suis dit, j'arbitre un match, j'ai d'un côté une équipe super cool avec des gars qui me respectent, qui posent le ballon et tout, et de l'autre côté, j'ai une équipe qui me gonfle, qui me truc, et ça monte à l'intérieur. Et quand vous avez le doute, systématiquement ça part contre
ça, ça peut aider les joueurs, ça peut aider les joueurs un peu faillots qui viennent toujours à l'arbitre,
mais la coupe, vous n'avez pas resté froid par rapport à ça,
Nico,
non, vous n'avez pas resté froid par rapport à ça, parce qu'une décision tellement importante, elle n'est pas là pour sanctionner un comportement général,
non, parce que à un moment donné c'est pas moi qui le décide, c'est là-haut que ça se décide, c'est parce que vous savez, un arbitre, comme je l'ai dit, dans un match, un arbitre il prend 80 décisions non décisions, 80 en moyenne. Dans un match normal, vous allez siffler 25 fois. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, vous êtes là, j'y vais pas. C'est toujours comme ça. Est-ce que le cerveau te dit à la main, monte et siffle parce qu'il y a faute ou pas? Donc c'est quand même quelque chose, c'est très très difficile. Si là-dedans vous m'envoyez des parasites parce qu'il est en train de contester tous les 10 minutes, tous les 3 minutes, 4 minutes, moi, lui mettre un carton, non, mais par contre, lui balarguer la faute.
Bah alors, il y avait des joueurs qui, au bout d'un moment, étaient vraiment insupportables. Chaque fois, vous dire, faut que je le recroise, lui encore, il est insupportable.
Oui.
Il y avait qui comme joueur?
Ah, il y en avait quelques-uns. Bon, je voudrais pas les citer parce que.
Bah, si, vous les citez.
Moi, le joueur qui passait le moins de très très loin parce qu'il aimait pas les arbitres, mais je lui en voulais pas, il aimait pas les arbitres. Donc, c'était quelque chose, c'était Lasserre au Paris Saint-Germain. Il n'aimait pas les arbitres, mais je ne lui en veux pas pour
ça. On a plein de questions à vous poser sur les joueurs entraîneurs les plus relous au bord du terrain, notamment Flo. Une question à vous poser, ce qu'on disait à l'instant. Reste avec nous, l'after revient dans quelques secondes sur RMC.
RMC.
RMC jusqu'à minuit. L'Afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Florent Gautreau, Maxime Chano, Daniel Riolo, notre invité Gilles Vessière, arbitre amateur, mais qui a travaillé au plus haut niveau pendant 15 ans dans sa carrière.
Ils vont me faire travailler. J'ai arbitré, tout simplement. C'était une passion.
D'accord, ok.
On n'a pas
vous
le même,
travail, écoutez,
on a pas le même maillot, mais bien sûr.
C'est ça qui est important. Et vous, vous n'étiez pas flic, hein, comme beaucoup d'arbitres. Hein.
Non. Comme je dis dans le livre, quand j'arrive dans les années 70-75, il n'y avait que des gens de la SNCF parce que, comme ils faisaient que le défraiement et qu'ils ne payaient pas, et qu'ils payaient pas le train, et ben, la fédération, ils promotionnaient tous les mecs de la SNCF. Donc, pour aller prendre une place à un mec de la SNCF, c'était dur.
C'est Quignou, Quignou était flic, Quignou.
Non, Quignou travaillait au ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est pas.
Oui, d'accord.
Informatique du ministère.
D'ailleurs, Joël Quignou a fait un truc complètement dingo qui ne se faisait pas. C'est le fameux carton au bout de 40 secondes en 86.
Tout à fait.
C'est un truc de fou, ça.
Ouais, parce qu'il a pris la pression. Bon. Il a pris une grosse pression. Il a pris une grosse pression. Il fallait absolument sortir les cartons rouges parce qu'il n'y en avait pas. Et lui, sur le premier, 40 sur secondes. La première faute, un match Écosse-Uruguay, il a mis le carton rouge.
Alors, avant qu'on parle, le volet corruption, vas-y.
Juste deux trucs déjà. Ça m'étonne pas qu'il y ait des chefs de gare sur le bord de touche s'ils viennent tous de la SNCF. Ouais. Premièrement.
Mais c'est pour ça qu'on nous a. Mais c'est pour ça qu'on nous a appelé les chefs de gare au début.
Ah oui, c'est
parce que les mecs, ils venaient tous à la SNCF. Donc on nous a appelé les chefs de gare.
Juste pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure sur le cerveau affectif qui fait que vous allez plus vers une équipe que vers une autre, je trouve que ça donne une lecture intéressante de la finale de nouveau PSG Arsenal, parce que je pense que l'arbitre il a été agacé par l'attitude des joueurs d'Arsenal et que c'est pas qu'il a tout donné à Paris, mais cet agacement s'est retranscrit dans son arbitrage.
Tout à fait, je suis en phase à 100%. Le gars il en a marre, c'est négatif, il est dans une finale, il voit bien qu'elle est vilaine, il voit bien qu'ils sont. Et puis c'est une erreur de désignation de mettre cet arbitre là qui est un grand arbitre. On fait pas une finale de Ligue Champions si on n'a pas le niveau, parce qu'il les avait déjà arbitrant en demi-finale. C'est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant d'arbitres de qualité et qu'on a des nations qui sont déjà dehors et qui peuvent amener
et
la
pourquoi
note.
Pourquoi elle fait cette erreur ? C'est l'UEFA.
C'est l'UEFA qui fait cette erreur, elle est incompréhensible. Ils l'ont mis en difficulté, l'arbitre, parce qu'il les avait déjà arbitrés dans des conditions difficiles contre l'Atletico et il lui redonne une dose derrière. Et moi, je peux vous dire que je n'aurais pas voulu être à sa place.
Vous auriez changé une décision, et notamment, je pense, la main du Paris Saint-Germain, ou alors la faute de Nuno Mendes.
Ou le penalty.
Alors, moi, je les ai analysées toutes les deux parce que mon éditeur m'a demandé de le faire et comme on envoie sur Dailymotion pas mal d'infos, moi, je suis catégorique. La double main, le footballeur, le joueur, Saka, ouais. Il est absolument rien. Le pauvre Robert Bellu.
Ça, on est d'accord. C'est absurde. Ça aurait été absurde, ça.
Mais c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo qu'on a fait chez mon éditeur, les éditions Vaillant. On a quand même une excellente décision de cet arbitre qui prend la décision de ne pas siffler parce que la première faute, on le voit bien, c'est Makuele.
Madueke.
Madueke.
Excusez, qui m'excuse. Madueke qui prend le bras et après, est obligé de le pousser. Si par bonheur il a la bonne idée de siffler, puisque c'est ce qu'il a vu, puisqu'il n'a pas sifflé, je lui donne cette qualité-là et ce crédit, tout à fait, et bravo à lui. S'il siffle et qu'il met faute en faveur du Paris Saint-Germain, il fait une mastercard. Pourquoi ? Parce que tout le monde aurait dit, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou. Il y a pénalty de Sida, ça appartient en vrille. Et là, ce bras accroché au début de l'action démontrer que effectivement il avait tout juste et là ça serait vraiment
encore mieux qu'il donne péno PSG en disant c'est vous qui avez non pas péno je veux dire coup franc PSG
bien sûr bien sûr si donne ce sifflet là c'est magnifique
les joueurs corruption en... rapidement on va faire tous les joueurs si on a le temps encore on va jusqu'à minuit Daniel
c'est les joueurs là
est-ce que vous avez déjà été dans votre carrière approché pour changer un résultat
oui une fois j'en parle dans le livre. Moi personnellement, je pars arbitrer un match pour le titre qui n'arrive pas à jouer. Ça fait deux fois qu'il part en bagarre générale. Ils n'arrivent pas à le finir. Il y a des pressions au niveau du monde arabe. Il faut finir le championnat libanais entre Nejmé et Al-Ansar.
Mais comment vous vous retrouvez à faire ce match-là?
Ben parce qu'ils veulent un arbitre neutre. Ils veulent un arbitre international de renom. Et donc ils m'envoient arbitrer ce match-là. Al-Ansar, c'est l'équipe, c'est le riche, c'est le gouvernement, et Nejmé, c'est le peuple. Donc on a cette différence et c'est les gens d'Al-Ansar qui nous reçoivent. Et là, effectivement, j'explique bien dans le livre comment il a essayé de nous soudoyer de manière éhontée.
Mais à votre époque, c'était quoi? C'est des montres, des manteaux de fourrure?
Non, c'était, là, en l'occurrence, c'était des dollars et il y en avait beaucoup.
Parce que vous n'avez pas pris?
Bien sûr que non.
Qu'est-ce que tu fais avec des dollars en France
C'est intéressant. Mais tu vas les changer. Tu vas les changer.
Pas de problème. Hein. Non, tu vas pas payer ta baguette avec
ça
le dollar.
Ça part d'une époque aussi où les revenus des arbitres étaient beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, donc plus exposés, plus sensibles peut-être à des propositions. En tout cas, c'est ce que pensait. Sur quoi pensaient pouvoir jouer les corrupteurs, entre guillemets. Mais il y a un cas, quand même, dans votre livre. Un exemple que vous citez, c'est l'arbitre Antonio Jesús López Nieto.
Oui. Connu, ah, il était super connu, lui.
Super connu, ouais. Qui lui, lors d'un Dynamo Panathinaikos, a été approché, enfin dans sa chambre, il a trouvé des biens en nature, quoi, avant le match.
Des biens en nature.
C'est un mal de lit.
Des biens en nature. La vodka, du caviar, deux manteaux de vison, une cassette.
C'est pas ce qu'on appelle ça. Tu vois, la légende des manteaux de fourrure. La légende des manteaux de fourrure.
Là, on est sur
des manteaux de fourrure. Nature.
Non, mais.
C'est pas compris la même chose. C'est un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue Champion, on est dans les années
95.
Ouais, on est dans les années 90. Et il rentre du repas d'après-match, lors d'un stage, il m'en parle. López Nieto, il me dit, il nous raconte l'histoire, on est autour d'un café. Et je dis, alors, raconte-nous et tout. Et il nous dit, voilà, je rentre du match. Et j'ouvre ma chambre. Et quand je rentre, sur le lit, il y a deux manteaux de vison, de la vodka, du caviar,
il y a une petite cassette
au milieu. Et là, il a un truc vraiment incroyable, c'est qu'on n'a pas encore les téléphones portables sur nous. Il appelle ses assistants, il lui dit, va vite acheter un téléphone, démerde-toi, trouve-moi un téléphone, vous savez, les téléphones jetables qu'on avait, les Kodak à l'époque.
Les appareils photo Kodak.
Et il part donc, un de ses assistants part, ils vont chercher le délégué, il touche à rien. Et quand le délégué arrive, entre-temps, il est allé chercher l'appareil photo, il est revenu avec, ils ouvrent la cassette, ils mettent, et là-dedans, il y a $30,000 en billets. Il les met sur le lit, il prend les photos. Là, il a été vraiment incroyable. Il referme tout, le délégué a vu, tout le monde a vu. Le lendemain matin, il rend tout, sauf un manteau. Il garde un manteau pour avoir une preuve.
Oui.
Pour avoir une preuve de tout ce qu'il a annoncé de ci, de là. Il garde que le manteau, il leur rend tout. Et le match se fait. En plus, Kiev gagne 1-0. Et il rentre au pays. Bien sûr, il passe par la Suisse. Il remet le manteau. Il remet l'appareil photo et les pellicules. Et là, la corruption, elle était complètement avérée. Et ce qui me met en colère sur cette affaire-là, c'est que Kiev ne prend que 2 ans de suspension. Et après appel, ils prennent qu'un an. Et je suis intimement convaincu que si les collègues avaient pris la cassette, avaient pris le manteau et quoi, ils auraient été radiés à vie.
Ah ouais.
Donc il y a un déséquilibre.
Et on pense que les arbitres qui ont pris les deux manteaux, par exemple, dans notre match.
L'influence de certains clubs, hein, puisque là on voit l'influence forte de certains clubs vis-à-vis de certains membres de l'UEFA et de la FIFA, parce que c'était une sanction qu'on n'a jamais avalée, quoi.
Ah ouais. C'est pour ça que vous supportez pas quand Longoria à Auxerre, à la Baie des Champs, le 22 février 2025, crie au complot, à la corruption. Ça, vous en parlez dans le livre. Ça vous met en grande colère, quoi.
Ouais.
De jeter
le
discrédit sur le corps arbitral français.
Ils peuvent pas jeter le discrédit sur le corps arbitral parce qu'aujourd'hui, il y a une seule affaire dans l'histoire juridique française qui a été prouvée, c'est au MVA. Et la seule personne en France qui est allée en prison pour 6 mois, c'est M. Tapie. Il n'y a jamais eu un arbitre, il n'y a jamais eu un journaliste, il n'y a jamais eu un entraîneur, il n'y a jamais eu personne d'autre. Une seule personne a été prise pour corruption en France. Bon. C'est autour d'un match de football. Donc, quand M. Longoria se permet de s'en prendre aux arbitres, je peux pas laisser passer ça. Je le dis haut et fort. Vous vous trompez, regardez l'histoire de votre club, vous apercevrez que vous êtes un peu plus concerné que tous les gens que vous avez, sur lesquels vous avez jeté l'opprobre.
Il y a une vraie question, ça existe encore les manteaux de vison?
Tu les mets dans quel cadre?
De moins en moins vu et apprécié, quoi.
Ouais, dans l'idée,
c'est un peu. Tu sais que c'est un objet, c'est un truc un peu riche, quoi.
Dans les années 80, 90.
C'est ça. Ouais, c'est fini maintenant.
Tu le mettais dans quel contexte, par contre?
Bah, les soirées,
l'hiver. Oui, l'hiver, oui, forcément, pas l'été.
Pas l'été à Nice, par exemple. Ah. On fait une pause dans un instant. Toutes les questions qu'on vous posait, Daniel, Flo.
J'ai jamais eu de manteau de vison.
Maxime.
Non, c'est plus à la mode.
Et le match plus dingue que vous avez dirigé, le joueur le plus difficile à arbitrer, l'entraîneur. Luis Fernandez dans le parking aussi. Il faut qu'on parle de tout ça rapidement. À tout de suite sur
RMC. RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Le Gautreau, Maxime Chanot, Daniel Riolo, et on se régale avec Gilles Bessière, la sortie de son livre Monsieur l'arbitre, édition Vaillant. Alors, plein de questions flash à vous poser. Rapidement, le match le plus dingue que vous avez arbitré, Monsieur Bessière.
Ah, le plus dingue, c'est parce que je finis en sang, agressé, c'est Espagne-Yougoslavie à l'Euro. L'euro de Belgique, donc c'est le 2000.
Euro 2000.
Voilà, avec ces fatigués de hooligans
Yougoslave à l'époque. Et puis le
déjà sévi, il faut s'en souvenir, dans le Allemagne-Yougoslavie qui a valu la blessure du gendarme Nivelle à Lens.
Tout à fait, tout à fait. Mmh. Tout à fait. C'était le même Akabi. Donc là, c'était vraiment un match qui m'a vraiment fait.
Ça, c'est le plus tendu, le plus dangereux.
Le plus tendu, il fait mal. Parce
le
qu'en
plus beau, je sais. Hein.
Le plus beau, c'est la finale.
Ouais. Ah ouais.
À la veste,
ouais.
Liverpool.
Liverpool à la veste.
Incroyable.
Le
5-4.
Elle est toujours dans les 5 plus belles finales de l'histoire de l'UEFA, quand même. Hein. Mm. C'est un match extraordinaire. Je l'aurais rêvé, je l'ai toujours dit, je l'aurais rêvé, je n'aurais pas pu.
Parce que quand on est arbitre, on a le temps de voir que c'est un beau match.
Ah ouais, là, je craquais tout le temps.
Parce que vous aimiez le foot, vous aimez le foot. Il y a un truc, c'est on est là, on trouve ça bien.
Il dit à la mi-temps, ses assistants, qu'il sent que les Espagnols vont revenir. Enfin, ils sont dans l'analyse du match.
Je suis au bluff total.
Il y a 3-1 pour Liverpool. Hein.
Ouais, il y a 3-1 pour Liverpool. Je suis au bluff total. Je les vois un peu ce truc. Je dis, les gars, vous déconnez, vous n'avez pas vu le même match que moi. Les Espagnols vont revenir. J'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont en prendre 6. Et je leur fais un intox. Et en 4 minutes, ils reviennent à 3-3. Quoi.
Et Jordi Cruyff, hein, qui m'a.
Jordi à la 88e. Sur le corner, bon, j'ai dit, putain, après le corner, on traîne pas parce que il y avait une ambiance de fou. Liverpool, c'était chaud, ouais. C'était bien. Puis Alaves avait fait ce qu'il avait fait le job. Mais 5-4, tu te dis, waouh.
Il y a CSC en plus.
Waouh,
ouais.
Ouais. Puis il y a le truc. Alors, il y a un truc extraordinaire dans le livre, c'est que sur les 1500 matchs, on m'a demandé de choisir mes 10. J'ai choisi les 10 matchs que j'ai le mieux vécu. Et surtout, on a fait un QR code.
Oui, c'est ça.
Et les gens vont pouvoir voir les 7 matchs. On a repris des images.
Ah, c'est génial, ça.
Ils vont pouvoir les 7 matchs et ils vont revoir cette finale, les 3h31 de match. Et elle est d'autant plus extraordinaire parce que le commentateur, il s'appelle Charles Bietri.
Est-ce qu'il y a un match comme ça où vous êtes passé au travers? Vous êtes sorti, vous dites j'étais nul.
Ouais, deux fois qui m'ont marqué. On fait un match important pour Lens à Lorient. C'est la première fois que je vois Gervais Martel en colère. Je passe à travers. On a un but de ballon rentré. J'aurais bien voulu avoir la goal line technologie. Rentré. Gervais et Lorient égalisent là-dessus. Et pourtant, Lens jouait le titre. Ils étaient 10 fois supérieurs. Lorient descendra et ça tape la barre. Ils rentrent pas. Ils font 1-1. Mais j'étais persuadé. Et Gervais m'attrape. Il me dit j'ai il n'est jamais rentré. J'ai dit Gervais, c'est pour moi.
Aïe,
voilà. Et là, j'en ai pas dormi. Et puis un jour, je fais un match à Guignon avec contre Nancy. Je suis nul. Mais alors, je passe à côté. Je suis tout à côté. Heureusement, Guignon gagne 4-1. Et j'ai pas influencé le match. Mais j'avais tellement été mauvais. J'avais tellement la haine. Olivier Rouillet vient me dire. Il me dit, est-ce que vous êtes conscient que vous avez pas été bon? J'ai dit, j'ai pas été bon. J'ai été nul. Il me dit, ça va. Alors, je me fâche pas. Olivier, c'était vraiment un mec super. Et c'est toujours un mec super. Et tellement j'étais haineux, je suis pris la voiture de Guignon et je suis rentré jusqu'à Nice alors que je devais dormir à l'hôtel et qu'il y avait quand même Guignon-Nice, ça fait quand même
ouais, c'est pas 8, côté, ouais.
850
pour évacuer la colère, il y a du temps. Hein.
Voilà, et j'ai
Vessière, l'entraîneur le plus insupportable.
Ah ben vous le connaissez, c'est pas le plus insupportable, c'est que ça s'est toujours mal passé avec lui, c'est Luis Fernandez.
Il a pris 6 mois de suspension après un match que vous avez arbitré. Il faut le raconter, demi-finale de la Ligue. Et quand vous le voyez, vous parlez maintenant. PSG Bordeaux. Vous faites toujours la gueule ?
Ah non, c'est vite, on sait vite.
Ah oui, non, ben, alors. Je raconter l'histoire quand même rapidement.
Alors, l'histoire.
PSG Bordeaux, demi-coupe de la Ligue, vous l'expulsez.
Bah, demi-finale de la Coupe de la Ligue, d'abord non, je l'expulse parce qu'il y a un pénalty. Il y a un pénalty que je siffle parce que Dugarry qui voit arriver de U, qui veut le couper en deux, il saute et il tombe. Bah, alors ils partent tous du principe qu'il n'a pas touché, mais heureusement, comme je leur dis, c'est heureusement que vous ne le touchez pas, sinon vous lui cassez peut-être la jambe. Donc je siffle pénalty. Et sur le pénalty, il n'y a pas moyen de le tirer. Mon quatrième m'appelle et il me dit sors Luis Fernandez parce qu'il t'a pourri de ci, de là, t'as un câble, à trottine et vachemine. Et moi, je lui demande de sortir et il me dit moi, ici, il n'y a personne qui me sort. J'ai dit, bon, je veux bien truc. Et derrière, il y a Jean-Louis Gasset qui lui dit, tu sors pas, Louis, là, qu'elle se faire enculer, tout ça. Et moi, j'ai dit à Jean-Louis Gasset, bon, on va commencer par vous. Donc, vous sortez. Mais à l'époque, on pouvait pas mettre
carton
le rouge.
Rouge, hein, me semble-t-il, pour les entraîneurs.
Donc,
c'est ça, hein.
On sort Gasset, Gasset sort. Et puis, Fernandez, il dit, mais moi, je suis pas Gasset, je sors pas. J'ai dit, mais vous avez raison. Ne sortez pas. Vous me donnez une bonne idée. Je vais sortir moi. Donc je vais compter jusqu'à 10, je vais appeler mes assistants, et à 10, si vous croyez que je ne vais pas le faire, libre à vous, mais à 10, je me casse. Et je commence 10, 9, alors je commence à enlever ma montre, je commence à mettre mon ticket dans la poche, 7, 6,
Et à un moment donné, à 4, il y a Gassé qui dit « Louis, sort, il va le faire, ce con
!» Et donc, il sort.
Donc il sort.
Et alors, ce qu'il faut raconter, c'est qu'il est environ 2h du matin.
Ouais.
Vous êtes ramené par un dirigeant du PSG à votre hôtel.
Non. Déjà, on arrive pour rentrer. Pour arriver
dans le parking du Parc des Princes.
Ouais, d'accord. Je sais que vous êtes pris. D'abord, pour arriver sur le truc, et puis les CRS arrivent. Monsieur Vessière, ne vous pressez pas, on ne va pas sortir dessus parce qu'il y a le feu. Bah, je m'en doute pas. Donc, vers 1h30 du matin, dans le match, il est fini depuis 22h15, 22h30 quand même. On sort, on arrive, on rentre dans donc, le dirigeant de Paris Saint-Germain qui doit nous ramener à l'hôtel, les deux assistants derrière, moi devant. On sort avec la voiture du Parc des Princes, et là, il y a une voiture qui nous bloque, qui arrive, qui truc. Qui me bloque, là, fort en amont, et qui descend, Luis Fernandez. Il y a mon assistant qui me dit, je descends, j'en ai plein le cul, je descends, je l'attrape. Moi, je ferme les portes, je bougeais pas, laissez tomber, en truc. Et là-dessus, il commence à palabrer, moi, je bouge pas, et puis, à force, il y a la sécurité du Paris Saint-Germain qui arrive et qui l'amène à la raison, le font rentrer dans la voiture, le font partir.
Il a pris 6 mois de suspension derrière.
On va en commission, et là, ça a été un grand moment que je raconte sur lui. Ah,
tout à fait. Le problème, c'est que Laurent Perpère, qui défendait Luis Fernandez à l'époque, qui était président du PSG, il n'avait pas l'élément. Luis ne m'avait pas dit qu'il vous avait bloqué.
Exactement.
Et Perpère lui dit, mais quoi, t'as fait ça aussi?
Il n'y a pas que lui, il y avait les avocats aussi.
Ah, comment on va faire?
Et vous savez, quand on s'est retrouvé en commission, et le président Riolacci, qui était un mec très très dur, un corse, un vrai, un tueur, il lui dit, Fernandez était comme ça, le truc, et avec sa sucette, il lui dit en pleine commission, il dit, vous allez pas nous faire un plat pour le parking, et là il y a le président qui dit, c'est pas une question de vous faire un plat ou quoi que ce soit, mais en 30 et quelques années de présidence, je pensais que ça, on le voyait en division d'honneur, en promotion d'honneur, mais le voir en demi-finale de Coupe de la Ligue, je pensais pas que je le vivrais un jour.
Joueur le plus insupportable,
Matarazzi.
Vous l'avez fréquenté Inter. Comment Matarazzi?
Inter de Milan, mais l'équipe nationale. Voilà.
Ah oui.
Et j'ai un gros sujet sur Matarazzi et Zidane, parce que je donne mon avis qui n'est pas l'avis de tout le monde sur le coup de boule de Zidane.
Mais Matarazzi, il était.
Non, mais il faudra le découvrir.
Parce qu'il était dur
à arbitrer. Il y a plein d'anecdotes.
Mais en fait, il était dur à arbitrer, Matarazzi, parce que en fait, c'était ce que moi j'ai longtemps appelé, maintenant on n'a plus trop le droit d'utiliser l'expression. Mais c'est une vraie garce, quoi. Il était dur sur le terrain, il était malin, c'était
un voleur de poule pour moi. C'était quelqu'un qui se faisait jamais attraper.
Mais il faut être méga intelligent et fort pour faire ça, mine de rien.
Ah oui, oui.
À chaque époque, on a eu des joueurs comme Van Bommel,
c'est vrai.
Ils étaient durs.
On n'arrivait pas à les attraper.
Après, pourquoi? Parce qu'ils faisaient la faute et vous n'arrivez pas à voir qu'ils faisaient la faute.
Dans notre dos.
Juste un mot aussi dans le name dropping sur les arbitres d'aujourd'hui en Ligue 1. Qui considérez-vous comme de bons arbitres aujourd'hui dans les listes? Vous en aviez 2-3 et où ils n'étaient pas bons?
Alors, moi, je vais être très clair, pour moi, ils sont tous bons. Parce que quand il y a 24 000 arbitres en France et qu'il en reste que 20...
Le Texier est le meilleur, c'est lui qui va au mondial.
Ouais, le Texier est le meilleur, mais j'explique pourquoi il est le meilleur.
Et Turpin qui a un boulard.
Attendez, pas de question, répondez juste à ça.
Je vous laisserai découvrir.
Ah ouais, d'accord.
On a un teasing.
Comment?
On a un teasing, pourquoi il est bon?
Comment?
Pourquoi il est bon?
Il est bon parce que il va jusqu'au bout de la manière dont il a construit le match. C'est-à-dire, il veut construire un match d'une certaine manière. J'avais un peu cette volonté-là. Il va jusqu'au bout.
D'accord.
Et il met les joueurs avec lui. D'ailleurs, il se démerde à les mettre avec lui. On peut pas réussir un match sans les joueurs.
D'accord.
Le joueur qui vous a fait la plus grosse impression sur un terrain. Vous avez dit, là, c'est très, très fort.
Bah, deux joueurs. J'en ai tellement eu de bons. Prenez compte. J'ai fait les plus grands de Ronaldo. Mais moi, Beckham, c'est pour moi un joueur hors norme.
Ah ouais, Beckham. C'est rare qu'on dise ça.
Quoi, c'est l'élégance ou c'est quoi? C'est
le rapport Beckham au ballon, c'est dans le grand Manchester de Sir Alex.
C'est la fameuse anecdote entre le Manchester et le Real Madrid.
Ouais.
Où Florentino Pérez vient et vous dépose un maillot de Zidane, non? C'est ça?
L'anecdote, c'est Gentleman Zidane. C'est que, je le raconte dans le livre, c'est mon plus beau moment. C'est mon dernier match au Real. J'avais demandé de finir au Real. On dit en 2004, c'est mon dernier match international. Et, deuxième période, je fais donc en Real Madrid. Je sais plus contre quelle équipe en Ligue des Champions. Il y a un changement, je passe à côté de Zinedine Zidane. Je dis, Zinedine, c'est mon dernier match. Est-ce que je peux changer ma chemise contre votre maillot? Il me dit, monsieur Vessière, avec grand plaisir. Donc, voilà. Et le match se termine. Pérez vient à la fin du match. Il me pourrisse de trucs qu'on avait tellement fait de matchs ensemble.
C'est le club.
J'ai même une grosse connerie sur le truc que je raconte le match, parce que Pérez vient et me dit, monsieur Vessière, voici un petit cadeau pour tout le grand match que vous avez, on a eu la chance de vivre ensemble et tout. Et moi, je lui dis bêtement, je le regrette encore aujourd'hui, je dis, président, pourquoi un petit cadeau? Il me dit, monsieur Vessière, commencez par regarder et que vous verrez que de temps en temps, les petits sont plus importants que les gros.
Ouvrez la cassette.
Et je vous dis, le cadeau, c'était une magnifique parure de stylo Cartier gravé
réservé à mon nom.
Oh, et pour Zidane, finir sur Zidane quand même.
Et Zidane, donc, du coup, l'histoire du moment, j'ai ma chemise, je sors, donc, avec, il y a le champagne, il y a tout ça, c'est un peu la fête, le Real vraiment fait bien les choses. Et en sortant, je vois le préposé, M. Serrano, j'ai dit, avec qui j'avais vraiment
de bon rapport.
Et je lui dis, il reste encore quelqu'un au vestiaire. Il me dit, oui, il y a Zinedine et il vous attend. Alors que tout le monde était parti. Ouais. Donc je rentre dans le vestiaire, il y avait Zinedine Zidane qui m'attendait devant son, c'est la photo qu'il y a dans le livre, devant son vestiaire avec un petit sac vert là où on met les, un petit sac vert tout très très juste. Il y avait son maillot dedans, moi j'avais un truc. Et j'ai dit, Zinedine, vous permettez? Il me dit, oui, je vous attendais. On s'est échangé les maillots, on s'est assis, on a discuté quelques instants de trucs. Grande classe, grande classe. C'est un gentleman de très grande classe.
Monsieur l'arbitre, votre livre autobiographie édition Vaillant, vous allez signer à Boulogne notamment, à Fnac de Boulogne-Billancourt.
Demain, rue de Lamartine, à partir de 17h, on aura l'avant-première, puisque le livre sort au niveau national le 3 juin, et, c'est-à-dire demain. Et 17h, rue de Lamartine, librairie Lamartine, dans le 16e. Et puis, surtout à la Fnac, j'espère qu'il y aura du monde, parce qu'ils ont vraiment fait de manière à ce
c'est la librairie de Sarko, mais votre livre est mieux que le sien.
La Fnac, Boulogne.
Je suis pas sûr la même queue devant, malheureusement. Mais bon,
la Fnac, le samedi à partir de 15h à Boulogne-Billancourt. Venez nombreux, on passera un super moment.
Je suis sûr que Julien Cazard a hurlé sur vous quand il était au Parc des Princes. Il arrive dans un instant.
Ah, bah lui, il était pour que Louis vous bloque avec la bagnole. Hein.
Il était peut-être au volant.
Il était dans la voiture, apparemment.
Dans un instant, Julien Cazard enchaîné avec Julien Cazard, Jean-Christophe Drouet. Bonne soirée à tous. Merci, Gilles Vessière.
Merci beaucoup.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.